Bien. Avec votre permission, on n'a pas fait le quart d'heure Poitevin, mais j'ai cru comprendre qu'il était tout en jaune, niorté. Enfin, voilà. Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue à l'Espace Mendès France. On a jusqu'à la fin du mois de janvier pour souhaiter la bonne année, donc tous mes voeux. Donc, bienvenue pour cette nouvelle rencontre du pôle créativité et territoire de l'Espace Mendès France. Avant de passer la parole à Jackie Deniol, qui a la haute main sur l'ensemble de l'activité de chaque année. Donc, vous remercier d'être présent. Je vais vous dire deux, trois mots du pourquoi et du comment de l'Espace Mendès France dans cette préoccupation. Donc, vous souhaitez la bienvenue. Et puis, vous dire à quel point, y compris dans la période troublée que nous passons, la réflexion, l'échange autour de la question de la langue, de la culture, du partage est importante, a fortiori dans une maison comme la nôtre, peut-être parce qu'on porte le nom de Pierre Mendès France et qu'on tient régulièrement par rapport à cette identité à être à la hauteur des dimensions politiques que ce grand personnage de la vie française de ce dernier siècle a laissé. Donc vous dire d'un mot que l'Espace Mendès France dans lequel vous êtes aujourd'hui à Poitiers est un centre de culture scientifique. Le mot scientifique, pour moi, il est à mettre avec un S. Les sciences de l'homme et de la société ont tant d'importance que les sciences dites dures. L'explication du monde par nos amis de la chimie, de la physique, des mathématiques, de la biologie, la présence des praticiens hospitaliers régulièrement dans cette salle a autant d'importance que les regards portés par les réseaux de connaissances des maisons des sciences de l'homme, l'histoire des sciences, puisque vous savez qu'on a un pôle d'histoire des sciences qui est essentiel pour nous. Bref, donc vous dire que la notion de culture scientifique, elle est plurielle. Elle est d'autant plus plurielle pour nous que depuis très longtemps, l'Espace Mendès France a développé une programmation. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entre les mains, mais le programme est sorti tout à l'heure. Le programme de l'Espace Mendès France, il se veut hétéroclite, il se veut divers, parce qu'il a avant tout comme essentiel objectif de diversifier ses publics. Donc, pour diversifier ses publics, il faut absolument pouvoir diversifier les présentations. Ce matin, on faisait la présentation justement du programme de l'Espace Mendès France devant les médias. Et nous avions dans la salle l'Université de Poitiers, l'INRA, le CNRS, le président de la COMU, cette nouvelle entité créée pour relier Orléans, Tours, Limoges, La Rochelle et Poitiers, à la veille d'un grand déménagement des territoires où on aura une université à Bordeaux, à Pau. Donc on voit qu'on se retrouve dans une configuration en termes de fabrique de la connaissance qui est énorme. Nos concitoyens ont déjà des difficultés à comprendre tout ce qui se passe en termes d'impact des sciences dans nos sociétés, a fortiori difficulté à comprendre que l'université ou les universités sont elles aussi en pleine mutation. Donc un centre comme celui-là, il a pour vocation, et vous l'aurez compris, de dispenser des présentations sur des contenus scientifiques, non pas qui disent la vérité, mais qui disent à un moment ou à un autre quels sont les divers paramètres qui permettent d'expliquer telle ou telle situation, telle ou telle connaissance. Cette explication doit donner lieu à débat, d'où cette salle qui, quand le bâtiment a été construit, n'était absolument pas conçue comme salle de conférence. Mais cette salle est devenue le cœur battant de l'Espace Mendès France. L'Espace Mendès France, c'est 55 000 personnes par an dans ses murs et c'est 60 000 personnes par an hors les murs. Et c'est peut-être une des fiertés que moi j'ai après 20 ans de direction de cette maison. Quand je suis arrivé, il y avait 17 000 personnes par an dans les murs et zéro hors les murs. Donc ce n'est pas qu'un problème quantitatif, c'est que nous sommes présents chaque année auprès d'une diversité de publics de plus en plus grande. Et surtout, on est chaque année présent dans près de 800 communes en Poitou-Charentes. La plus petite a 236 habitants, on l'aime beaucoup. La plus grande, bon, c'est Poitiers, mais peu importe, les urbains sont souvent gavés de propositions culturelles. L'important, c'est que la fabrique du contenu, les débats sur les contenus scientifiques tels qu'ils sont organisés ici à l'Espace Mendès France puissent être mis à disposition de nos concitoyens partout, quels que soient les conditions géographiques, sociales, culturelles, éducatives, etc. Donc, pour faire ça, on a passé un certain nombre d'accords, de partenariats, vous l'aurez compris, avec l'Université de Poitiers, les grands organismes que sont le CNRS, l'INRA, l'INSERM, l'IFREMER. Et à l'extérieur, La Rochelle, bien sûr, mais aussi on a des contrats territoriaux avec le Conseil général de Charente-Maritime, celui des Deux-Sèvres, avec qui on a travaillé. Je salue notre ami Vigneron qui est là, avec qui on a travaillé pendant 7 ans. Et je pense qu'on a fait œuvre utile en posant le débat, en posant des questions, en mettant pas forcément les gens très à l'aise par rapport à un certain nombre de choses. Mais l'idée, c'est de faire avancer, avec l'aide de la connaissance scientifique et le regard des sciences humaines, de faire avancer notre présence dans les territoires, d'aider l'administration à changer son regard, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris, la qualité des contenus, elle est essentielle. L'objectif de diversité des publics, c'est pas un discours, c'est une réalité. Donc, si les gens ne viennent pas à nous, on fera comme Lagardère, on ira vers eux. Et pour aller vers eux, on essaiera de trouver des lieux qui ne sont pas les lieux habituels de la diffusion culturelle. Et ce qu'on fait régulièrement, année après année. Et finalement, à l'ère de la grande transformation des territoires, on se retrouve dans une problématique où l'expérience sociale autour des sciences que l'Espace Mendès France a pu faire ces dernières années se trouve en fait à arpenter de nouveaux territoires, je vais en dire 2 mots, mais surtout des thématiques qui ne sont pas a priori des thématiques qu'on aurait pu penser accorder ou adosser à des centres de culture scientifique au sens classique du terme. Voici 16 ans, la revue L'Actualité Poitou-Charentes, elle est à l'entrée, vous en avez pris un certain nombre d'éléments, avait rédigé un numéro spécial avec l'aide de la région Poitou-Charentes, c'était Jean-Pierre Raffarin, la présidente de l'époque, un numéro spécial sur la francophonie. Le titre, c'était « Une langue, des cultures ». Tout ça, pourquoi? Parce que nous avions fait intervenir des créoles, des Louisianais, des Africains, des Québécois, des Français, bien sûr, puis à l'intérieur de cette notion de français, diverses façons d'aborder les choses, des médiévistes, des spécialistes de la langue Doyle et Doc. Nous avions eu 2 grands témoins, un qui s'appelle Maurice Gomel, que peut-être certains d'entre vous connaissent, conseiller pour la francophonie de François Mitterrand de 80 à 90, et un monsieur qui s'appelle Boutros-Boutros-Ghali, que vous connaissez au moins de nom, et qui nous avait dit à quel point la présence du français et de la francophilie avait été importante dans la construction des institutions scientifiques et universitaires d'Égypte. Donc on voit que derrière cette notion de langue, derrière cette notion de francophonie, on est appelé à 2 choses, à accepter la diversité, mais aussi à reconnaître ce qui nous unit. Moi, j'avais un ami, j'en parlais tout à l'heure avec notre intervenant québécois de tout à l'heure, qui s'appelle Barry Ansley, qui est universitaire à Lafayette, en Louisiane, et qui est parolier de Zachary Richard, qui a fait plusieurs conférences ici, qui nous disait à quel point est-ce que l'important c'est de parler le français standard ou est-ce que c'est parler en français avec des gens qui parlent français et de se comprendre? Il avait raison. Il avait raison. Mais qu'est-ce qu'il nous disait derrière ça? Il nous disait que derrière le même mot, on cache des histoires différentes, des histoires individuelles et collectives. Et derrière le même mot, avec ces histoires différentes, on essaie de bâtir un accord commun sur des choses différentes, la langue étant un des éléments de ces différences. Donc, vous aurez compris que dans cette salle, on parle autant de maths, de physique, de chimie, d'origine de l'homme, hein, puisque vous avez ça, que de regard de science, des sciences humaines sur l'état de notre société actuelle, et que ce qui est le principe, ce qui est premier dans cette salle, c'est le débat et la construction d'un certain nombre d'éléments de contenu. Alors, cet après-midi, grâce à Jackie Doniol, qui coordonne cette discussion permanente sur la question de la créativité dans les territoires, on va vous inviter à débattre, à constituer un échange qui soit fécond pour vous, titre personnel, citoyen, politique, professionnel, scientifique, je n'en sais rien, et peu importe. Ces contenus sont enregistrés. Ces enregistrements sont, comme on dit en français, podcastés sur le site internet de l'Espace Mendès France. Le site de Mendès France, c'est maintenant 60 000 personnes différentes par mois. Et sur les 60 000, c'est pratiquement 30 000 sur nos podcastings, voilà, sur les écoutes, on va appeler ça les écoutes audio. C'est énorme, hein. Il y a 3 ans, c'était rien du tout. Premier point. Et puis le deuxième point le plus téléchargé de l'Espace Mendès France, ce sont les dossiers pédagogiques. Il y en a 100 en ligne. Donc ça prouve qu'une maison comme celle-là, à partir d'un travail très concret, de proximité, en appui à des sachants, on appelait ça autrefois des savants, à des sachants, mais vous êtes aussi des savants et des sachants. À partir des périmètres issus des sachants et des savants, on arrive à diffuser au prix du plus grand nombre. Voilà, donc si nous sommes présents aux côtés de Créativité et Territoire, c'est parce qu'il nous semble que la discussion qui a lieu autour de ce mot de créativité renvoie à l'indispensable mobilisation intercollective que nous aurons à avoir entre des groupes sociaux, des groupes constitués, des groupes qui se reconnaissent, mais surtout de manière transverse vers des territoires. Des territoires, on est en Poitou-Charentes, donc nous on parle de villes, de communautés, de communes, d'agglomérations, de pays, de départements, mais un petit peu plus tard on aura à parler dans une région qui aura pas loin de 5 millions d'habitants, qui fera 500 km du nord au sud, on aura à parler de nos diversités et je pense qu'un établissement comme celui-là, à partir des discussions qu'on va avoir aujourd'hui, des discussions qu'on a déjà eues ici, le numéro et j'ai vu dans le hall sur la question des territoires, ces discussions devraient nous permettre de faire y compris un certain nombre d'interventions, de prendre des initiatives et de pouvoir continuer la discussion avec nos concitoyens. Donc, dernier point pour ce qui est de la francophonie, instrumentalement, concrètement, sachez que l'espace Mendès France, à l'ère du numérique, est en train de devenir un producteur, on va se payer de mots, international, mondial, puisqu'un certain nombre d'expositions que nous avons produites ces 3 dernières années sont en train de partir dans le monde entier. Systématiquement en français et traduite en japonais pour l'université d'Okayama avec qui on vient de recevoir la convention il y a quelques minutes pour créer un pôle de diffusion de la culture scientifique en français, en japonais et en anglais et ensuite japonais, chinois, etc. Nous venons de finir de vendre un dispositif complet sur la question du climat à Kuala Lumpur pour la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, l'Australie et la Nouvelle-Zélande en français, en anglais, en malais. Et nous avons passé un accord avec nos amis du Sénégal pour être sur l'ouest de la France avec l'aide d'un institut, mais on va vous en parler, qui s'appelle l'AUF. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'anciens poitevins qui dirigent ces bureaux. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont poitevins, je pense qu'il y a un intérêt à la diffusion des connaissances. Sauf que les supports que nous sommes en train d'envoyer grâce au numérique sont des supports qui sont co-construits avec le monde scientifique, mais pas que le monde scientifique, le monde des praticiens. Et si vous avez quelques minutes, ou si vous avez du temps, allez voir l'exposition que nous avons faite sur les questions du climat qui est à l'étage. Cette exposition, elle a été construite bien sûr avec des scientifiques, mais aussi avec des gens du terrain. Et les savoirs populaires, les savoirs constitués dans des groupes sociaux et culturels sont aussi importants pour nous que les savoirs scientifiques. Nous ne nous interdisons pas, bien au contraire, puisqu'on a beaucoup de choses qui diffusent au niveau international, comme je vous l'ai dit, de constituer peut-être grâce à vous et à la suite de journées et à l'aune de l'année 2015, francophonie créative ou créativité francophone, de constituer les conditions d'une exposition revalorisant le français langue étrangère, le français à l'étranger, à partir peut-être de contenus tels qu'ils auront pu être discutés ici, en sachant encore une fois que le numérique est un outil, mais un outil qui nous permet de démultiplier tout un tas de paroles, de prises de paroles, de positions qui paraissent parfois marginales, mais qui en fait ont parfois un caractère universel sans qu'on le sache. Donc cette maison a pour rôle, une fois que les questions de qualité des contenus, de qualité de la médiation auront été définitivement réglés, a aussi pour rôle de diffuser largement, bien au-delà des publics habituels, les contenus tels qu'ils font l'objet de discussions ici. Alors que ce soit à quelques kilomètres de Poitiers ou à La Rochelle, à Ruffec, à Angoulême ou je ne sais, l'idée c'est aussi bien sûr de pouvoir, grâce à vos dires, à vos savoirs, à vos compétences, de pouvoir répercuter vos débats bien au-delà chez un certain nombre de nos confrères. Et là, le bémol que je mettrais à ce qu'on fait à l'espace Mendès France, c'est que je regrette qu'on n'y ait pas assez de pôles culturels, nous on est scientifiques, techniques, éducatifs, etc., qui s'intéressent à la diffusion avec de la pluridisciplinarité. On trouve peu d'écho, malheureusement, en France pour ce genre de problématiques, alors qu'on en a plus que jamais besoin. Voilà, donc, hormis ce petit bémol que je mettrais sur la difficulté qu'on a à diffuser tout ça, donc je voulais vous dire combien on était heureux de vous recevoir. Les journées créativité et territoire, ça a commencé il y a 4 ans avec une demi-journée, ensuite une journée, ensuite 2 jours, 3 jours, on est parti pour 4 jours. On aura de grands témoins, c'est quasiment confirmé en octobre prochain, en la personne d'un monsieur, un Américain qui s'appelle Florida, qui est celui qui a inventé ou qui a invité tout le monde à parler de la question entre communauté et territoire. Relisez ses écrits, c'est étrangement prémonitoire en plus pour un certain nombre d'entre eux, même s'il est à l'aune d'une culture nord-américaine. Il y a plein de choses qui sont dites dans ses écrits depuis une trentaine d'années. Donc c'est grâce à nos amis de Louisiane que M. Florida sera à cette tribune au mois d'octobre prochain. Et puis j'ai réinvité M. Boutros-Boutros-Ghali à être là en octobre. Donc on est en train de tricoter tout ça pour vous, pour nous, et pour que ça soit diffusé au-delà de nos frontières. Donc encore une fois, merci. Donc, Jackie, notre majordome, notre monsieur loyal, notre maître. Bon, vous connaissez tous les centaines de mails de Jackie, hein, il n'y a pas de problème, vous faites comme moi, vous les lisez doctement, au cas où vous poserez des questions. Donc, Jackie, merci d'avoir encore une fois organisé ça. Je te donne la parole pour présenter nos intervenants. Et puis, je vous rappelle, mais il va le dire, que j'ai mon ami chocolatier de Châtellerault, Maître Berton, qui sera là pour vers 17h, compléter l'utile à l'agréable, ou l'agréable à l'utile, je ne sais pas. Hein. Donc, merci aussi à toi d'être là.
Merci Didier. Donc, je vous interrogerai pas sur les mails, rassurez-vous. Hein. Donc, il n'y a pas d'interrogation. Simplement, je vais appeler Michael Augeron, Michel Debin et Dominique Germain à se joindre à la tribune. Ensuite, on aura un deuxième temps avec d'autres intervenants. Mais ces trois premiers, je les appelle donc à venir nous rejoindre à la tribune. Et pendant ce temps-là, je vais donner la parole 2 minutes à Madame Allard, enfin un peu plus, pour qu'elle vous explique. Mais allez-y, allez-y, Michael, hein, pendant ce temps-là, pour qu'elle vous invite à faire une dictée. Voilà. Maintenant, rassurez-vous.
Non, non. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je m'appelle Anne Gallard et je viens de l'association Club Soroptimiste de Poitiers. Je ne sais pas si vous connaissez les Soroptimistes, enfin le Soroptimiste international, c'est une organisation donc mondiale de femmes engagées dans la vie, dans la société et professionnelle. Elle œuvre, c'est donc une organisation mondiale qui œuvre par des actions donc de service à l'édification donc d'un monde meilleur pour les femmes. Alors c'est une ONG reconnue donc par les Nations Unies qui bénéficie d'un statut consultatif donc à l'UNESCO et à l'UNICEF et créée donc ça a été créé en 1921 aux États-Unis, en 1924 à Paris et à Poitiers. Nous avons donc un club depuis 1995. Moi j'y suis que depuis 4 ans, mais depuis 95 donc. Nous œuvrons, donc nous essayons de mener des actions pour aider des femmes donc dans divers domaines. Alors ça s'inscrit dans des thèmes très différents qui sont, alors je vais vous en donner quelques-uns et après on viendra au vif du sujet. Alors la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, l'éducation au développement durable, l'aide à la scolarisation d'élèves au Burkina Faso, puisque nous finançons une école là-bas. Le soutien à des associations caritatives comme la Banque alimentaire, on participe à la collecte tous les ans. On attribue un prix qui s'appelle le prix Lucie André et qui récompense des élèves de troisième d'un collège à Poitiers, le collège Rabelais. Et on attribue également le prix Soroptimiste à une romancière francophone tous les 2 ans, donc qui est décernée par l'Union française des Soroptimistes. Et alors là, je viens donc ici pour vous proposer notre prochain événement, c'est le 25 janvier, donc le dimanche 25 janvier au Salon Blossac, une dictée Collignon qui vous est proposée donc à 15h. Si ça vous amuse, venez parce que c'est sympa. C'est une dictée, bon, Collignon, vous connaissez peut-être, sûrement pour certains. Voilà, donc c'est au tarif de 10 € l'entrée et nous, ça nous, cette action, en fait, elle va nous aider à remettre un prix d'excellence à une jeune femme qui s'est engagée dans une formation qui mène à un métier d'homme en tradition. Donc, on veut essayer de favoriser aussi l'avènement de jeunes femmes sur des professions plus masculines. Voilà, merci.
Merci Madame Allard. Alors, vous avez évoqué Jean-Pierre Collignon. Je pense juste, il a un blog, il publie régulièrement un petit mot tous les jours. Et le mot du mercredi 7 janvier, je vous donne quelques éléments. C'est lui qui le dit. Une fois de plus, en France, on entérine une régression de la culture générale. Courage, on va peu à peu en revenir au lexique réduit de l'homme des cavernes et au ratatinement des cerveaux. Depuis plusieurs années déjà, la plupart des médias renoncent à employer un vocabulaire étendu parce que les lecteurs ne comprendraient pas. Depuis de nombreuses années aussi, les ordres donnés par la rédaction chef d'une importante chaîne de télévision, j'en ai été personnellement témoin, c'est lui qui le dit, sont de n'employer que le présent de l'indicatif et de bannir tous les objectifs au prétexte qu'il y a nécessité de faire court et immédiatement compréhensible. Voilà, je vous laisse à méditer tout ça. Et en attendant, donc maintenant, je donne la parole à Michael Augeron, dans un premier temps, qui est historien à La Rochelle et qui est responsable scientifique des lieux de mémoire picto-charentais québécois et qui pourra élargir, parce que je sais sa vocation internationale à Michael, mais déjà peut-être de situer le contexte du Poitou-Charentes par rapport au Québec. Et Madame Michel Debain interviendra ensuite. Et en troisième, je dirais, témoignage, Monsieur Dominique Germain. Donc, Michael, à toi.
Donc, bonjour à tous. Je vais essayer, donc, quelques minutes qui me sont imparties, de vous présenter un des projets qu'on a menés de manière très très étroite avec la région Poitou-Charentes aujourd'hui, puisque vous allez voir, il y a une continuité jusqu'à maintenant. Et puis, surtout par l'ancien service de l'inventaire, quand il était rattaché au ministère de la Culture, avant qu'il passe sous le giron régional. Ce projet s'appelle Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France. C'est un projet qui a été lancé vers 1999-2000 à peu près par deux personnes. Quelqu'un qui s'appelait Georges Coste, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui travaille pour le ministère de la Culture, et un universitaire de Poitiers qui est malheureusement décédé aujourd'hui, Dominique Guillemet. Et moi, j'ai été rattaché en fait à ce projet après qu'ils aient lancé justement les premières opérations. Ce projet avait pour objectif, avec une équipe canadienne, québécoise pour être plus précis, d'inventorier en région Poitou-Charentes et au Québec tous les lieux qui rappelaient notre histoire commune. C'est à l'origine, et c'est toujours, un projet pilote qui était cofinancé par les deux ministères de la Culture, ministère de la Culture du Québec, ministère de la Culture français, avec l'appui très fort sur le plan financier de la région Poitou-Charentes et des quatre départements de la région Poitou-Charentes. Ce financement nous a permis, de part et d'autre, de recruter deux personnes à temps plein qui ont, avec nous, donc travaillé, et c'est surtout eux qui ont fait le travail, hein, il faut bien le dire, d'inventaire, d'identification des lieux et de documentation de chacun des lieux qui ont été donnés. Dès l'origine, les objectifs étaient posés, même s'ils ont, au fil des années, ils se sont affinés au fil des années. L'objectif du côté picto-charentais, c'était avant tout faire connaître notre région, offrir des choses à voir à nos amis nord-américains quand ils viennent faire du tourisme ici. C'était aussi, grâce à ces lieux identifiés et promus, en faire aussi autant de petits produits d'appel qui permettraient d'attirer davantage l'attention de nos amis nord-américains. Mais de l'autre côté, au-delà du tourisme et de la documentation des lieux, c'est assez classique quand on fait un inventaire, il y avait vraiment en germe là, la volonté aussi d'affirmer l'identité québécoise face à cet océan anglophone canadien. Donc vous l'avez compris, dès le début, on avait un petit différentiel. On a une histoire commune, mais le fait canadien ne représente pas la même chose dans l'identité française comme dans l'identité québécoise. Hein, pour nous, c'est un élément de notre histoire, alors que pour les Canadiens francophones, c'est central, bien évidemment. Ce qui sous-entend que nous avons eu beaucoup discuté et nous avons eu surtout des difficultés à définir certains concepts, y compris d'ailleurs le concept même de lieu de mémoire. Alors pour essayer de trouver un compromis, nous sommes partis de l'œuvre monumentale de Pierre Nora, que nous avons fait aussi un peu évoluer, notamment nous avons pris en compte la possibilité de créer des lieux de mémoire, c'est-à-dire de les révéler et de faire que la collectivité, les groupes constitués, peuvent investir ces lieux et leur donner du sens, leur donner de la valeur, c'est-à-dire se les approprier ces lieux-là. Alors ce projet a été mené de manière logistique de 2001 à 2008. Pourquoi 2008? C'était un peu pour nous une date symbole, une date charnière. C'était bien évidemment la fondation et par-delà l'anniversaire de la ville même de Québec. Et nos amis québécois tenaient à ce que cette base de données soit opérationnelle pour les grands jours, en fait, pour ces grands anniversaires qui ont eu lieu de l'autre côté de l'Atlantique. Alors au final, nous avons identifié à peu près 1500 lieux de part et d'autre. Mais attention, ces lieux sont très différents d'un territoire à l'autre, justement. Si chez nous, on ne pouvait globalement qu'inventorier des églises où des migrants avaient été baptisés avant de se rendre outre-Atlantique au XVIIe et XVIIIe siècle pour y fonder famille, si on pouvait également inventorier un assez grand nombre de plaques commémoratives, y compris des plaques de rue, bien évidemment, qui rappellent aussi ce lien ancestral avec le Canada, nous n'avions pas le matériel, y compris archéologique, que l'on trouve de l'autre côté de l'Atlantique. On a encore des maisons des 18e siècle, voire de la fin du 17e siècle. Et puis surtout, on n'y mettait pas le même sens, on n'y mettait pas la même valeur dans ces lieux. Ce qui sous-entend qu'il y a aussi un problème quand on rédige des notices. Des notices qui étaient destinées dès le début à figurer sur le web pour être diffusées le plus largement possible. Et je vous disais tout à l'heure qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, de nouveaux objectifs se faisaient jour. Et on s'est aperçu en effet qu'il y avait une demande très forte en fait, de la part des associations, et ça on le savait depuis le début, c'était aussi un public cible qu'on avait bien identifié. Mais il y a derrière les associations France-Québec ou France-Louisiane, d'autres associations qui étaient elles aussi demandeuses de données pour valoriser des lieux, ici ou là, pour bâtir des spectacles et donc aider justement à la scénarisation des lieux, et par-delà, identification des discours qu'on pouvait tenir autour d'un public extrêmement diversifié. Et puis, au-delà de cela, d'autres publics se sont greffés sur l'inventaire, des publications, des journalistes, par exemple. Et puis, le grand public lui-même a adhéré. Alors, je n'ai malheureusement pas de chiffres en tête, mais certains mois, surtout au moment des grands événements commémoratifs, eh bien, on a eu plus de 100 000 visites par mois sur ce site. Et actuellement, il est encore, semble-t-il, abondamment consulté. Et quand on regarde d'où viennent justement les connexions, on s'aperçoit, et c'est tout à fait logique, que c'est l'Amérique du Nord, on pouvait s'y attendre, par rapport au Canada, bien évidemment, et en particulier à la province de Québec, mais on s'aperçoit que ça vient de partout en Amérique du Nord. Mais ça vient aussi du monde entier, de manière générale, même si ça vient de manière plus ponctuelle. Ben, n'oublions pas, en effet, que nos Français qui ont fait souche au Canada au XVIIe et XVIIIe siècle, à peu près 9000 personnes, qui ont fait souche, qui ont fondé famille là-bas, sur à peu près 70 000 personnes qui ont fait la traversée, et seulement 29 000 en gros qui ont passé au moins une année au Canada. Eh bien, ces 9 000-là, à peu près, ont fondé famille, et puis par le jeu des générations successives, par le jeu des migrations aussi internationales ou internes, eh bien, on a ces descendants qui, maintenant, sont un peu disséminés de par le monde, jusqu'en Afrique du Sud et en Australie ou ailleurs. Alors, si je vous dis cela, c'est que cet inventaire qui a été, justement, qui s'est officiellement achevé en 2008, eh bien, continue à avoir des retombées assez direct. À titre personnel, en tant que chercheur à l'Université de La Rochelle, spécialisé sur l'Amérique du Nord en particulier, eh bien, je reçois assez fréquemment, presque tous les mois, des demandes de personnes qui ont vu leur ancêtre sur la base de données et qui me demandent des compléments d'informations, parfois que je les aide à venir à La Rochelle ou ailleurs, en gros, à organiser leur séjour. Et puis je sais aussi que de temps en temps, il y a des journalistes qui m'appellent, qui doivent appeler aussi peut-être d'autres personnes qui ont collaboré, je ne sais pas, à l'inventaire, pour avoir des informations, pour les aider justement à présenter des lieux dans différentes publications. Et puis on sait aussi que des tour opérateurs se sont emparés aussi de cette base pour affiner des circuits à vocation touristique, culturelle, mais aussi mémorielle. N'oublions pas que le tourisme des racines, c'est un secteur, une niche touristique qui est en plein développement. Et bien même eux ont puisé et puisent encore dans la base, justement, pour essayer de jouer sur la fibre sensible, sur l'émotion, afin d'attirer l'attention de leurs clients potentiels, parce qu'on est aussi dans un environnement économique, et voilà où mène parfois le scientifique. Scientifique, projet expérimental, projet à vocation culturelle, voire identitaire, mais aussi projet in fine à vocation économique par les retombées qu'il peut entraîner. Alors sans vouloir monopoliser la parole, je dois dire que cet inventaire, eh bien, il a été en quelque sorte adapté, non pas reconduit, j'insiste, adapté, dans un autre pays pour lequel on a une coopération internationale via la région Poitou-Charentes, dans le cadre de la coopération décentralisée, le Sénégal. En effet, nous avons mis à profit l'expérience que nous avons acquise, alors du côté de l'Université de La Rochelle, mais aussi du côté du service de l'inventaire Poitou-Charentes, pour offrir à l'Afrique de l'Ouest son premier inventaire des patrimoines informatisés en ligne. Et sans nous mettre en avant, nous avons réussi là où beaucoup d'équipes avant nous ont échoué. Et je crois vraiment que cette réussite, elle est liée justement à cette expérience de terrain qu'on a pu avoir avec nos amis canadiens, et surtout cette question méthodologique qui était centrale dans notre approche, ce différentiel que j'évoquais tout à l'heure, la manière de voir les choses, de les percevoir de manière différente. Pour le Sénégal, on s'est dit, pourquoi est-ce que ça a échoué jusqu'à présent? Tout simplement parce qu'on essayait de calquer un modèle français sur le plan méthodologique à une réalité qui est totalement différente sur le terrain au Sénégal. Donc le but, c'était de partir des habitants, des populations, de leurs vœux, de la manière dont ils pouvaient concevoir l'utilisation de cet inventaire pour ensuite le créer de toutes pièces avec eux. Et là, je salue vraiment le travail du service de l'inventaire qui a été fait, notamment sur le plan informatique, pour justement nous aider à rendre cette base, d'une part réelle, mais aussi de manière très opérationnelle. À tel point qu'on a eu, que l'ensemble des participants du projet ont même eu les félicitations au plus haut niveau de l'État sénégalais. On nous a dit à plusieurs reprises que justement, on était les premiers à avoir réussi cette opération. Pour vous donner une idée, on a inventorié, rien que dans la région de Fatick, c'est-à-dire là où on avait notre action, là où on menait notre travail, plus de lieux que tous les lieux inventoriés au niveau de l'État sénégalais. Donc ça veut dire qu'y compris sur le plan scientifique, on a eu là des retombées très concrètes qui vont faire d'ailleurs l'objet très bientôt d'un livre, comme on avait fait dans le cadre de l'inventaire Nouvelle-France, Poitou-Charentes. Voilà. Et j'en terminerai sur une chose, c'est qu'il y a un autre pays qui s'est intéressé à notre inventaire, c'est le Vietnam. Le Vietnam nous a demandé, notamment dans la province de Thoi Thien Huy, c'est l'ancienne province du centre Vietnam, c'est là où se trouvait la famille impériale, le siège du pouvoir impérial et du protectorat aussi, bien sûr, du temps de la colonisation française, du protectorat français. Eh bien, le Vietnam s'est aussi intéressé à ce que nous avons produit deux fois en ligne pour essayer de voir si on pourrait faire la même chose pour ce territoire-là. Alors, je ne sais pas si l'inventaire Poitou-Charentes va suivre cette fois-ci, je l'espère, à titre personnel, mais pour vous dire qu'il y a une attente, que la francophonie, elle est là, qu'elle peut vivre sur le web, qu'elle peut répondre à des attentes extrêmement diversifiées. On peut le comprendre pour le Canada, Québec, des francophones, sénégalais, francophones aussi. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des poches de francophonie au Vietnam, notamment dans le centre Vietnam, avec une génération aujourd'hui qui redécouvre le fait français. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du Vietnam, la culture vietnamienne, on retrouve, y compris dans la langue vietnamienne, de très nombreux mots français. Voilà. C'est bizarre qu'ils retournent aussi vers leurs racines. Et cette histoire qui a été souvent très douloureuse avec la France, on peut l'imaginer comme dans bien d'autres zones ou territoires coloniaux, eh bien, elle fait l'objet aujourd'hui d'une véritable volonté de valorisation, à tel point qu'on nous a demandé, il y a maintenant 4 ans, de valoriser y compris cet héritage français sur le plan matrimonial. Et quand je dis valoriser, je pourrais y inclure un fort volet muséographique. Voilà, merci à vous.
Merci, Mickaël. Est-ce qu'il y a des demandes de précision rapidement? Sinon, de toute façon, on laisse intervenir les deux autres intervenants de la table ronde. Et puis ensuite, évidemment, il peut y avoir un débat. Simplement, peut-être tu peux donner quand même quelques dates, je pense qu'ils sont importantes. Notamment, je sais qu'il y a un colloque sur le citoyen touriste, dont ton master est quand même... qui colle bien avec ce que tu nous disais. Et puis, je crois qu'il y a un colloque aussi sur la Nouvelle-France.
Au-delà du colloque, qui va plutôt réunir des professionnels et des universitaires, on organise, donc l'association France-Québec organise son congrès à La Rochelle en mai prochain. Et d'après les chiffres qui commencent à circuler au niveau des inscriptions, il y aurait à peu près 400 à 450 personnes donc qui viendraient de... en grande partie de l'autre côté de l'Atlantique, à La Rochelle, sur les traces de leurs ancêtres, le thème retenu étant justement la francophonie. Voilà, et l'université va s'y associer sous différents aspects, y compris au niveau de l'hébergement pour amphi et autres salles. Alors justement, dans ce cadre-là, l'inventaire va être à nouveau réactivé du côté Poitou-Charentes, non pas en termes d'ajout de nouvelles fiches, par rapport à ces 1500 fiches évoquées tout à l'heure, mais par le fait justement que la mairie de La Rochelle, par exemple, nous a demandé, à partir de la base, de constituer un circuit thématique dans les rues de La Rochelle pour présenter l'histoire de La Rochelle et son patrimoine à travers ses relations ancestrales qu'on entretient avec le Québec depuis le XVIIe siècle. Voilà, donc l'inventaire n'est pas mort, il continue à vivre. Et on a là un exemple très, très concret.
Merci, Mickaël. Écoutez, Madame Debin, vous pouvez enchaîner. On est parti du Québec, mais on a vu qu'on allait gagner beaucoup d'autres terres, mais c'est très bien parce que ça introduit le sujet.
Effectivement.
Donc, je vous laisse le soin de vous présenter, de
merci.
Intervenir.
Merci. Donc, je m'appelle Michèle Debin. Je suis actuellement la présidente de Châtellerault Québec Acadie, une association qui effectivement évolue dans les sphères francophones du Canada, mais également de la Louisiane, puisque les Acadiens émigrés en Louisiane, qu'on appelle les Cajuns, puisque c'est une déformation du mot acadien qui est devenu Cajun. Voilà. Donc, c'est une association qui est affiliée d'une part à France-Québec. France-Québec, c'est une fédération nationale qui regroupe une soixantaine d'associations de villes affiliées au Québec. Et il y a France-Acadie, qui est une autre association qui est davantage avec un projecteur sur le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et également le Maine dans les États-Unis et la Louisiane. Donc notre association de Châtellerault a cette particularité d'être affiliée des deux côtés. Elle est un petit peu le canard un peu bizarre, puisque quand on parle de France-Québec, on ne parle pas trop de France-Acadie. Quand on parle de France-Acadie, on ne parle pas trop de France-Québec. Et donc, nous, nous faisons la synthèse de ces deux grands pôles. Ces deux associations, France-Québec a été créée il y a à peu près une 40 et quelques années, après le Vive le Québec libre, effectivement, du général de Gaulle, et c'est ce qui a lancé avec M. Rossillon, avec Xavier Deniau, donc des gens qui sont importants, mais qui ont également participé à la création de France Acadie, comme quoi tout était déjà impliqué. Et sur le plan du Châtel-Rodet, là, je pense que vous êtes tous probablement de la région. Vous connaissez la ligne acadienne qui est située donc du côté d'Archigny et qui a vu ses émigrés revenir, ses réfugiés revenir en terre poitevine alors qu'ils en étaient beaucoup partis. Donc, je vais revenir aussi sur des choses que vous avez dites. Hein. Vous avez parlé de tous ces lieux de mémoire. Les lieux de mémoire, notre association France-Québec a également édité, mais non pas avec des historiens compétents et disons presque même salariés pour qui ont des subventions très importantes. On a fait un travail du même genre que le vôtre, mais avec des bénévoles. Et on l'a fait non seulement sur le Poitou-Charentes, mais on l'a fait sur l'ensemble de la France. Donc c'est-à-dire qu'il y a 12 livres concernant les lieux de mémoire communs qui répertorie effectivement les. Donc il y a eu un travail commun qui a été fait, il y a des regroupements, il y a effectivement du tourisme qui part à partir de ces ouvrages, mais pas seulement au niveau du Poitou-Charentes. Donc on a 12 ouvrages qui ont été réalisés, dont le dernier est sorti cette année. Ça a pris énormément de temps, d'une part pour convaincre les bénévoles de s'impliquer dans ces recherches qui sont quand même assez fouillées. Donc, je vais revenir également sur le Vietnam, parce que vous avez parlé de l'intérêt du Vietnam pour le fait francophone. Il y a quelques années, on a organisé la dictée francophone réalisée par France-Québec, et la marraine a été Kim Thuy, qui est donc une vietnamienne d'origine, mais qui est réfugiée, qui a fait partie des Boat People et qui s'est installée avec ses parents au Québec, qui est donc devenue déjà francophone par le Québec, qui écrit d'une façon merveilleuse. Elle avait eu la gentillesse d'accepter d'être la marraine de cette opération. Alors, pour parler donc de notre association affiliée à ces deux domaines, nous avons beaucoup d'échanges de jeunes. Et ces jeunes, c'est donc par l'intermédiaire de l'IRTS que nous sommes ici aujourd'hui. Je remercie M. Yves Coutant et puis Gladys Bugeaud de nous avoir permis de vous parler, de faire connaissance avec ce lieu de l'espace Mendès France et l'ensemble des personnes qui sont là. Les jeunes qui partent au Québec, nous les aidons dans la mesure du possible à trouver soit des lieux de stage, soit des lieux de rencontre pour être accueillis là-bas. Et notre association, par l'intermédiaire du siège national à Paris, peut faire un pont entre ces jeunes qui partent là-bas. Les jeunes donc de l'IRTS, certains cette année sont partis, sont déjà revenus de 4 mois de stage. L'an dernier, il y en avait 9. Cette année, il n'y en avait que 3. L'an prochain, il y en aura un petit peu plus. Ces jeunes ne sont pas les seuls à bénéficier de l'aide que nous pouvons leur apporter. Nous avons ce qu'on appelle les intermunicipalités avec le Québec. Une ville du Québec envoie des jeunes à Châtellerault, par exemple, et nos jeunes de Châtellerault vont là-bas pour des travaux d'été, simplement, pendant les 6 semaines de vacances d'été. Ils sont reçus par des municipalités qui leur offrent une possibilité donc, de travailler. Ce sont ce qu'on appelle en bon français des jobs d'été. Et donc, la mairie paye un travail ici et envoie les jeunes là-bas. Les jeunes de là-bas sont rémunérés par la municipalité de là-bas. Donc on a à Châtellerault tous les gens, 2 ou 3 jeunes qui partent dans ce cadre-là. C'est un des aspects. On a aussi à l'IUT de Châtellerault, mais cette fois ça n'est pas avec le Québec, c'est avec l'Acadie. Nous avons des jeunes qui vont travailler et qui sont en stage dans le courant de leurs études avec l'Université de Moncton, donc au New Brunswick. Et on reçoit à l'IUT de Châtellerault et avec la mairie de Châtellerault des jeunes qui viennent travailler dans les différents services. Ça, ce sont des, du point de vue des jeunes, ce sont les choses les plus importantes. Du point de vue littéraire, je reviens, notre association participe tous les ans aux 10 mots de la langue française avec la délégation générale de la langue française et des langues de France. Nous avons donc un travail que nous faisons avec les écoles, les collèges et les lycées. Et nous avons également une dictée. Je vois que la dictée a été proposée tout à l'heure pour le mois de janvier par une autre association. Nous avons donc tous les ans une dictée francophone et chaque année, donc, nous avons un parrain ou une marraine. Donc, il y a 3 ans, nous avions Kim Thuy, là, qui venait du Vietnam. Et donc, nous avons également des projections de films. La langue à terre, cette année, c'est quelque chose qui est important puisqu'on dit que la langue française serait en perte de vitesse, notamment dans les domaines des entreprises. Et c'est un film qui a été réalisé en conjointement avec un réalisateur français, un réalisateur québécois qui circule actuellement. Et nous l'aurons à Châtellerault au mois de mars dans la semaine de la langue française. Nous avons très souvent des tournées artistiques avec bien sûr des artistes qui viennent du Québec. Nous avons parfois aussi des artistes qui viennent de l'Acadie. Nous avons aussi un prix littéraire. On parlait tout à l'heure aussi de prix littéraire. Un prix littéraire France-Québec qui permet aux lecteurs de notre association de lire plusieurs ouvrages qui viennent du Québec et des ouvrages qui viennent d'Acadie. Et ensuite, nous avons la possibilité de faire un jury et d'attribuer un prix de lecteur, un prix donc France-Québec. Il existe la même chose au Québec, puisque l'association France-Québec en France a une association sœur qui s'appelle l'association Québec-France. Nous avons un concours de slam, puisqu'on parle beaucoup de la langue qui est projetée, qui est claquée, puisque le mot de slam, c'est un mot d'origine anglaise, mais qui veut dire claquer. Donc nous avons tous les ans, depuis 4 ans, un concours de slam qui met en évidence la valeur des mots sans musique. Simplement, ça n'est pas du rap. C'est simplement la poésie qui est proclamée, qui est lancée. Et cette année, le bénéficiaire, celui qui avait eu le prix du concours de slam de Châtellerault, a concouru avec 14 autres personnes à Paris et il a eu le 2e prix et ça lui a permis de partir au Québec, passer 8 jours et de faire une tournée là-bas avec d'autres. Et nous avons reçu aussi en France, pas à Châtellerault malheureusement, mais nous avons reçu les slameurs du Québec qui sont venus faire une tournée. Ça, c'est du point de vue littéraire. Vous voyez, donc nous avons beaucoup d'intérêt avec la langue française. Et pour revenir aussi à ce que vous disiez, au mois de mai prochain, pendant le pont de l'Ascension, il y a un congrès international Québec-France, France-Québec qui va se dérouler à La Rochelle, dont bien sûr le thème c'est aussi une langue des cultures. Voilà, donc on revient avec ce qui était dit tout à l'heure. Du point de vue, qu'est-ce que je peux dire encore sur notre association? Donc je pense que là je peux peut-être faire passer, si ça ne dépasse pas le temps qui m'est imparti, une petite vidéo qui a été proposée par France Québec National.
France-Québec a été fondée par quelques amis dont je suis et sous la présidence d'Alain Perfitte, qui était à l'époque le ministre de l'Éducation nationale. Et Alain Perfitte avait reçu pratiquement des directives à l'époque du voyage du général de Gaulle au Québec pour poursuivre l'amitié entre la France et le Québec. Et il s'était étonné qu'il n'y eût pas d'association pour rassembler les deux pays.
Progressivement, l'association a essaimé en province et a créé des associations locales qui, dans notre langage, s'appellent les régionales. Et nous avons d'ailleurs une association sœur qui s'appelle Québec-France, qui est organisée de la même façon au Québec et avec qui nous avons des relations. Nous mettons en place des programmes, nous avons un congrès commun tous les deux ans.
L'action des régionales de France-Québec et de ses bénévoles est une action qui est une action de terrain, une action qui compte et une action surtout qui permet au Québec d'être présent sur l'ensemble du territoire avec les 63 régionales.
Autant au niveau national, à notre siège national, que dans les régionales, nous répondons à beaucoup de sollicitations téléphoniques ou par courriel sur des projets de jeunes qui veulent aller au Québec, soit étudier, soit y travailler, soit s'y installer.
Alors, elle va être accueillie 3 semaines chez la directrice des ressources humaines de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Après, elle va passer 4 semaines chez un employé des espaces verts, etc.
Nous avons, avec nos régionales, passé des accords avec des municipalités françaises et québécoises et on offre des emplois d'été dans les municipalités. Un autre exemple très populaire, c'est le programme Vendange. Grâce à des partenariats avec des viticulteurs, nous offrons des places pour que les jeunes Québécois viennent faire les vendanges.
Cueillir des fruits, c'est agréable, on est dehors. Journée comme aujourd'hui, il fait un beau gros soleil. Tu apprends à connaître des gens. Je sais pas, c'est chouette.
Un gigot que j'ai cuit en basse température et que j'ai d'abord glacé au sirop d'érable et au miel.
Chaque lauréat régional ira donc au Québec faire un stage professionnel trouvé par l'ITHQ et l'école Ferrandi qui est partenaire. Et France-Québec, l'association et le FQJ se partagent le prix des avions.
Vous serez des merveilleux ambassadeurs de l'excellence française et de l'expérience de mobilité dans le cadre de la relation franco-québécoise.
Nous avons développé surtout des programmes qui ont trait à la langue, à la francophonie.
Le prix littéraire France-Québec, c'est avant tout un prix des lecteurs qui récompense un auteur québécois. Il gagne la possibilité, même l'obligation, de venir au printemps au Salon du Livre de Paris où on lui remet officiellement son prix. Et après, il part 2 semaines en tournée dans les régionales qui ont souhaité le recevoir. Et là, c'est des grandes rencontres avec des collèges, des bibliothèques, des médiathèques, des adhérents, des non-adhérents. Et ça, c'est un grand, grand, grand moment de partage pour eux. C'est un grand bonheur.
Nous avons la dictée francophone. C'est un exercice ludique et de différents niveaux. On parle du primaire, on parle du secondaire, on parle d'adulte.
Il y a 14 slameurs et slameuses de tous les coins de la France qui viennent faire claquer la parole.
Effervescence de mes sens, incandescence, incandescence de mes sens.
Et après, on a fait plusieurs scènes avec, avec d'autres slameurs, des Québécois et des Français.
10 ans de travail, 12 volumes publiés qui sont assez extraordinaires et dont le titre est « Ces villes et villages de France ». Berceau de l'Amérique française. Il s'agissait de repérer les pionniers qui étaient partis au XVIIe et XVIIIe siècle vers la Nouvelle-France à l'époque.
Nous avons créé un groupe de travail qui s'appelle les enjeux de société. Ce groupe de travail a pour mission de travailler sur des préoccupations communes, le vieillissement de la population, le handicap, la place de chacun dans la société. Voilà. Le Québec est une province qui fait confiance aux jeunes. Et ça, pour nous Français, c'est une grande leçon à prendre.
Nous avons aussi toute une action de partenariat avec des entreprises québécoises et des organismes qui promeuvent la relation économique entre la France et le Québec.
L'association France-Québec a une vitrine qui s'appelle la revue France-Québec Mag. C'est une revue qui paraît 4 fois par an et qui donne un panorama le plus complet possible de l'actualité québécoise et surtout de l'actualité franco-québécoise. Elle est réalisée par des bénévoles, des universitaires, des journalistes, tous des passionnés de la vie québécoise et du Québec. France-Québec Mag, c'est la seule revue existante qui parle de la relation franco-québécoise.
On a un petit peu la couveuse de projet entre le Québec et la France et ce Québec.
Nous sommes la société civile qui faisons de la relation franco-québécoise 365 jours sur 365, 24 heures par jour.
Je ne vois pas comment la délégation générale du Québec à Paris pourrait effectuer un travail aussi efficace sans l'apport du réseau de France-Québec.
Beaucoup. On va enchaîner avec le troisième témoignage qui va nous dire pourquoi il est là d'ailleurs, puisqu'il est québécois. Et donc, grâce à Gladys et à Yves, on a pu justement l'intercepter un petit peu de son temps, puisqu'il est là, je crois, pendant une semaine, 15 jours, comme vous le direz. Donc, je vous laisse la parole, puis sur le sujet que vous vouliez intervenir.
Alors, bonjour. Alors, on parle beaucoup de Québec. Alors, comme dirait Diane Dufresne, me v'là. Je suis là. Alors, merci premièrement de me recevoir ici. Je suis en projet de mobilité enseignante. Je suis enseignant au Cégep Montmorency à Laval, qui est une ville qui est juste au nord de Montréal. Le Cégep, je ne sais pas si vous connaissez les Cégeps au Québec, c'est une création typiquement québécoise qui existe depuis à peu près maintenant 50, environ 50 ans. C'est un centre d'études générales et professionnelles. Donc, on a retranché une année des études secondaires et une année universitaire pour faire un entre-deux qu'on appelle les cégeps. Et dans les cégeps, il y a des formations dites générales qui mènent à des études universitaires et des formations techniques qui mènent à l'emploi. Donc, j'interviens sur une formation technique qui s'appelle Technique d'éducation à l'enfance. L'équivalent ici en France serait éducateur de jeunes enfants, EJE, qui s'offre à l'IRTS. Alors, je suis en partenariat avec l'IRTS depuis maintenant 2 années. Je suis venu ici à Poitiers la première fois. J'ai été invité par M. Coutant, que j'ai communiqué avec lui par Internet du Québec. Et puis, j'étais avec des étudiants parce qu'à chaque année, j'organise un voyage de mobilité étudiante avec un groupe de finissants, donc des éducateurs et éducatrices à l'enfance fraîchement diplômés, qui sont curieux de connaître ce qui se passe en France dans les crèches, dans les jardins d'enfants et dans les centres de formation. Alors, en 2013, la première fois, je suis venu ici avec 3 étudiantes qui voulaient vous connaître, et puis on a passé la journée ici. Et ensuite, on a continué le partenariat avec Gladys Bugeaud. Puis, l'année passée, il y avait 15 étudiants qui sont venus habiter dans votre ville pendant une semaine. Je ne sais pas si vous nous avez vus quelque part, mais on était là. Et puis cette année, ben, c'est moi, je suis seul, et puis c'est un projet qui est financé par Cégep International. Alors, juste pour faire un lien avec ce que disait monsieur tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait 9000 personnes qui étaient parties au 17e siècle. Alors, je suis de ces personnes, pas moi, mais mes descendants, j'ai un ancêtre qui s'appelle Jean Germain, et il est parti de Saint-André-de-Niort en 1692. Puis, il est parti de La Rochelle, à ce que je sais, et il est arrivé par le fleuve, donc en rentrant dans le Québec. Il y a une petite rivière qui s'appelle la rivière Batiscan, et mes ancêtres se sont installés là et tranquillement ont remonté la rivière vers le nord jusqu'à Saint-Stanislas. Et moi, je suis né là, à Saint-Stanislas, sur le bord de la rivière Batiscan. Donc, ça me faisait penser à ça tout à l'heure quand vous parliez des 9000 personnes. Alors, dans mon travail, alors je suis ici en fait pour vous parler d'un portfolio électronique. Je ne pense pas d'avoir le temps de vous le présenter à l'écran, mais je pourrais vous laisser une carte s'il y en a qui veulent voir c'est quoi. C'est un portfolio qui est gratuit, en fait, pour les personnes qui travaillent en éducation. Et je m'en sers dans un cours pour les étudiants. Alors, c'est un cours qui s'appelle « Contribuer à son développement professionnel », qui s'offre à la dernière session d'études des étudiants en éducation à l'enfance. Donc, c'est un cours qui dure 60 périodes en tout. et puis qui s'offre avant le stage, avant le dernier stage, pendant le dernier stage et à la fin. Donc, il y a 44 périodes avant le stage, 12 périodes pendant le stage et 4 à la fin. C'est un cours qui se divise en 5 sections. Donc, la première section s'appelle, on a mis des titres, là, ça s'appelle « Se rappeler ». Parce qu'à la fin d'une formation de 3 ans, on veut se rappeler de ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, ce qu'on a trouvé difficile, ce que ça nous a apporté, nos apprentissages et tout ça. Ensuite, se définir, parce qu'à la fin d'une formation, on devient des professionnels. Donc, on doit se définir en tant que professionnel, quelle sorte de professionnel on est, qu'est-ce qu'on veut devenir. Ce qui amène à la troisième section, à se perfectionner, parce qu'on n'apprend pas tout. Vous savez, dans une formation de 3 ans, on ne peut pas tout apprendre sur le métier d'éducateur à l'enfance. Donc, on se cherche un sujet et on se perfectionne. Ensuite, la quatrième étape de ce cours, c'est se soutenir. Donc, c'est pendant le stage. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une partie pendant le stage. Donc, les étudiants reviennent au centre de formation, au cégep. Et puis, ils apportent des difficultés qu'ils vivent en stage et chacun présente une difficulté et tout le monde l'aide. Et ensuite, à la fin, la dernière étape, c'est se dire au revoir. Donc, c'est à la fin du stage, à la fin de la session et à la fin de la formation, les étudiants nous racontent à nous, les enseignants, ce qu'ils gardent comme souvenir de nous et comme souvenir de leur passage chez nous. Bon, alors, tout ça, il y a un outil qui accompagne ce grand cours-là. Et puis, depuis l'année dernière, j'ai décidé de laisser des traces, pour que les étudiants puissent démontrer qu'ils ont fait un grand cheminement parmi nous, qu'ils sont devenus des professionnels. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le portfolio électronique. Le portfolio électronique, ça vient de l'Université de Montréal, qui était créé pour les étudiants en éducation. Donc, ça servait à se trouver un lieu de stage. C'est un outil gratuit, donc, qui peut être utilisé à travers le monde. Si jamais vous côtoyez des étudiants ou des gens en éducation qui veulent se présenter par le biais de l'électronique, bon, ça peut être un bon outil. Donc, c'est Edu Portfolio. Si pour les intéressés, je donnerai l'adresse tout à l'heure, tantôt, comme je voulais dire. Comme on dit chez nous. Et puis, bon, la raison pour laquelle j'ai utilisé ça avec mes étudiants, c'est qu'on voulait leur donner un moyen pour se trouver un emploi. Donc, en créant le portfolio, ben, ça leur permet de se présenter, de présenter leurs apprentissages et ce qu'ils sont en tant qu'éducateurs, éducatrices diplômés. Ça peut aussi les aider à se présenter aux parents, parce que, bon, une fois en emploi, ils s'occupent des enfants, mais les enfants ont des parents, et puis ceux-ci veulent bien connaître la personne qui va s'occuper de leurs enfants durant la journée. Donc, ça permet vraiment de montrer aux parents qui ils sont et de rassurer ainsi les parents. Et puis, sur le portfolio électronique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une section protégée. Donc, on peut créer une page avec un mot de passe. Et puis, donc, si l'éducatrice décide pendant la journée qu'elle prend des photos d'une activité avec les enfants, puis qu'elle veut les diffuser aux parents, bien, elle peut les mettre sur cette page-là. Les parents ont accès par un mot de passe. Donc, ce n'est pas diffusé à grand public, mais seulement les parents qui ont le mot de passe peuvent regarder. Donc, ça fait un outil de communication aussi avec les gens qui utilisent les services. Voilà, et puis, ben, si ça vous intéresse, je vous laisse ma carte ensuite, puis je vous enverrai la page sur mon portfolio, parce que pour donner l'exemple à mes étudiants, j'ai créé un portfolio électronique avec une présentation de ce que je fais, puis d'où, qui je suis. Puis, ce qui m'amène aussi à vous présenter, pour terminer, un livre que j'ai écrit. Je suis l'auteur d'un livre parce que j'ai étudié... Je suis éducateur à l'enfance de formation, mais ensuite j'ai étudié en musique. Je suis diplômé en chant classique. Et puis, pendant mon Master 2, en fait, je pense que c'est l'équivalent de votre Master 2 ici, j'ai écrit un travail qui parlait des besoins des éducatrices à l'enfance en ce qui concerne l'éveil musical et les chansons. Après ça, j'ai adapté ce travail-là pour en faire un livre, parce que je voulais laisser une trace de ce que j'avais fait. Et puis finalement, en mai 2014, est sorti ce livre qui s'appelle « Chanter, c'est éducatif ». Donc, c'est un peu, pour moi, c'est quelque chose qui est très significatif, parce que c'est mes deux passions. Ça réunit mes deux passions, ma passion pour l'éducation, parce que je suis un formateur, un enseignant, et ma passion pour la musique, parce qu'à la fin, il y a un petit CD, et puis ben, c'est moi qui chante les chansons que je suggère aux enfants. La direction musicale a été confiée par quelqu'un qui, au Québec, est très important au niveau de la musique. Je ne sais pas si vous avez vu les émissions de télévision pour enfants qui s'appelaient « Passe-partout ». C'était des émissions qui étaient destinées aux enfants, alors que moi, j'étais un enfant. Et puis, pour moi, ça a hanté toute ma jeunesse. Et puis, je me suis retrouvé avec ce monsieur-là, dans son sous-sol de sa maison, avec sa guitare. Puis, il m'a sorti sa guitare. Et puis, j'entendais tous les sons que j'entendais quand j'avais 5 ans. Donc, c'était quelque chose d'impressionnant. Et puis, c'est pour ça que je suis très fier de vous le présenter aujourd'hui. C'est un ouvrage que je suis fier. Donc... Chanter, c'est éducatif. Vous pouvez le commander du Québec, si vous voulez, sur le site Internet. Puis j'ai apporté des publicités, des petites plaquettes. Je pourrais les laisser là-bas pour que vous les voyez après. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.
Merci, M. Germain. Merci à vous trois. Mais restez pour l'instant, parce qu'il peut y avoir quelques questions ou des réactions dans la salle. Qui veut commencer? Vous présentez en même temps, comme ça, ça permet.
Isabelle Thomas, guide conférencière. Je me posais la question, Monsieur Augeron, quand vous avez parlé de la nécessité d'adapter le travail de l'inventaire par rapport aux cultures des pays où vous alliez, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple concret?
Alors, je dirais que je vous prends l'exemple du Sénégal. Vous savez que pour faire un inventaire, il faut, au-delà de l'identification des lieux, il faut les documenter. Et pour les documenter du côté français, on utilise essentiellement des archives et un petit peu la tradition orale, alors que dans beaucoup de pays africains, on est plutôt à l'inverse, dans peu d'archives et beaucoup de tradition orale. Voilà. Et vu du côté occidental de manière générale, et pas seulement français, parce que je crois que la question aurait pu se poser ailleurs en Europe, c'est comment peut-on faire un inventaire alors qu'on a peu d'écrits? Et quand on a de l'écrit, c'est d'écrit plutôt français, donc le regard du colonisateur ou l'aide colonisateur. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a dû beaucoup travailler justement sur la collecte de ces témoignages oraux et intégrer, et c'est ça peut-être la nouveauté du côté français, la tradition orale. Ce qui veut dire que ce n'est pas toujours la vérité ou la réalité. La tradition, c'est peut-être aussi parfois un fait avéré qui a été déformé par les habitudes, par des regards différenciés, etc. Et bien nous, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas donner aussi ce regard différencié et sortir un petit peu du fait historique attesté comme on le fait fort classiquement du côté français. Voilà. Et je crois que la force a été là aussi parce qu'on a le droit de raconter des histoires, y compris les touristes, et pas seulement à des enfants, pour faire le lien avec vous. Voilà. Et tout le travail qu'on peut faire avec des jeunes d'une manière générale. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Pardon, excusez-moi.
D'autres questions? Vous présentez en même temps?
Bernard Klein, je suis ingénieur économiste. Je suis retrouvé dans pas mal de pays du monde à EDF International pour finir dans les zones d'immigration. Alors, le travail que vous menez, pour reprendre, bon, si on prenait l'Algérie, donc c'est les départs, les retours des pieds noirs. Je dis, il y a de la complexité. Et pour l'Algérie, bon, s'ils ne reviennent pas, mais il faut éventuellement critique sur notre société. Voilà, donc effectivement, derrière ce que vous faites, il y a une problématique générale des flux migratoires, voilà, qui est d'actualité. Alors, deuxième chose, les lieux. Bon, il y a Charonne, il y aura bientôt le siège de Charlie Hebdo. Dans les lieux de mémoire forts, donc vous avez un concept de lieu de mémoire, qui doit être un peu différent. Et c'est aussi sur cette question-là que je voudrais que vous précisiez votre pensée.
Alors, à qui vous posez la question? Oui. Alors, en fait, voilà. Moi je vais vous le dire franchement, je ne suis pas un intégriste des lieux de mémoire tel que Pierre Nora est défini, même si j'adhère parfaitement aux démonstrations qu'il a faites avec toute l'équipe qui se trouve derrière. Mais je considère qu'on peut, aussi faire évoluer la définition et puis surtout l'adapter. Ce qui peut être un lieu de mémoire chez nous, ce n'est pas forcément un lieu de mémoire ailleurs. Et puis surtout, on ne les charge pas ces lieux de même sens, de la même émotion. Voilà. Et je considère que c'est à chaque groupe constitué de s'approprier le lieu et d'y mettre ce qu'il a envie d'y mettre en termes de sens, de valeur et justement d'émotion, pas derrière. Voilà. Alors, tout à l'heure, on évoquait par exemple, et ça rejoint un peu peut-être votre question, madame me demandait qu'est-ce qu'on a fait de différent sur le plan méthodologique. Bien, j'aurais pu ajouter, et peut-être que ça répond aussi à votre question, en fait, plutôt que de faire les inventaires nous-mêmes avec nos yeux d'occidentaux et mon français à moi, eh bien, avec le service de l'inventaire, on a formé des jeunes sur place qui allaient voir les habitants
qui s'adressait aux habitants en français quand ils parlaient français, mais quand ils ne parlaient pas français, ils s'adressaient dans leur langue maternelle. Et donc, ce n'était pas un blanc, un étranger de manière générale, hein, ce n'est pas une question de couleur de peau, qui allait voir ces personnes, c'était des enfants du pays. Voilà, et qui justement comprenaient la culture et étaient capables de la transcrire à l'écrit et par-delà de la faire figurer dans la base de données. Alors, autre élément aussi, c'est que quand on retranscrit tous ces témoignages, tout ce savoir hein, que les uns et les autres ont, des familles, des pères, des mères, etc., c'est aussi justement les prendre de manière assez brute. Et je crois que c'est aux scientifiques, éventuellement après, d'analyser, d'exploiter ces données. Mais nous, on les retransmet de manière brute auprès du grand public pour que tout un chacun, justement, se fasse son image, se forge son regard et qu'on participe de manière générale au débat citoyen. Enfin, voilà, notre objectif, c'est de pas de prendre position, y compris sur le fait français, parce que parmi le patrimoine qu'on a inventé au Sénégal, il y a à peu près la moitié des monuments qui sont d'origine française. Alors, on n'a pas innové, hein. Quand on regarde ce qui se fait au niveau de l'État sénégalais, à peu près la moitié des sites publics, des monuments classés de l'État sénégalais sont d'origine française. Donc, il n'y a aucun tabou du côté sénégalais là-dessus, contrairement à l'Algérie que vous évoquiez. Ce qui veut dire que je suis persuadé que le travail qu'on a fait avec nos amis sénégalais, on aurait eu beaucoup plus de mal, voire peut-être l'état actuel des choses, ça aurait été très compliqué de le faire, en Algérie. Voilà. En revanche, je disais tout à l'heure, au Vietnam, cette période est éloignée, il y a eu la guerre contre les Américains entre-temps, il n'y a aucun regard négatif, et ça m'a étonné, y compris auprès de gens qui sont très âgés que j'ai pu interviewer, par rapport à la période française. Au contraire, on a même à l'inverse maintenant une image très idéalisée de la période française. Donc on tombe en quelque sorte dans l'excès inverse. Donc je dis bien mon travail, c'est ce que je dis à chaque fois, ce n'est pas pour prendre parti ou pour influer un regard ou une émotion particulière, c'est donner de la matière brute, matière grise bien sûr, par-delà, pour que tout un chacun puisse se positionner. Et voilà, et je crois que c'est le rôle du scientifique, hein, c'est donner les clés de compréhension, puis à tout un chacun, quand il a ses clés, de se faire son avis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie à votre question.
C'est le terme de lieu. Est-ce que pour lui, c'est La Rochelle dont est partie sa famille
Le lieu, c'est soit un territoire, soit un monument. Hein, je pense que c'est comme ça. Mais ça peut être aussi un repère commémoratif. Hein, c'est comme cela qu'on le prend. Voilà. On a vraiment une définition.
Rue, voilà.
C'est pour nous, un repère onymique, donc une plaque de rue, c'est aussi un repère mémoriel potentiel. Voilà.
C'est ça.
C'est matériel ou immatériel, voilà. Mais je dis bien, même un lieu qui n'a plus de vestiges, par exemple archéologiques, hein, ou qui n'a pas forcément de plaque, mais que la collectivité, plus ou moins élargie, ou un groupe constitué, une association par exemple, y met quelque chose, de l'émotion, pour nous, c'est quelque chose d'important. Parce que celui-là, il est chargé de quelque chose pour ce groupe constitué. Et donc, potentiellement, on le prend en compte. Parce qu'il y a là une possibilité d'exploitation et de valorisation, quelle qu'elle soit, hein, pas seulement économique ou touristique, mais aussi proprement identitaire, répondre aussi aux attentes des associations. Puis je pense que vous êtes tout à fait intéressé à ce genre de choses.
Il y a deux...
Dans l'ouvrage de Nora, il y a la gastronomie.
Bien sûr.
Donc, il y a des pratiques qui sont
liées, y compris au niveau des arts de la table, qui maintenant sont reconnus, comme vous savez, au plus haut niveau international. Voilà, tout à fait.
Deux autres questions pour l'instant. Oui, merci Daniel Laudonnet. Moi, je suis consultant en tourisme, un responsable d'une association à Poitiers qui s'appelle Equitour. Et donc, j'ai bien entendu que vous évoquiez effectivement dans l'utilisation des travaux que vous avez fait et qui a été fait, l'utilisation pour le tourisme, et entre autres, l'utilisation par les tour opérateurs. La question était tout simplement... Était-ce des tour opérateurs québécois qui l'utilisent ou français ?
Il y a eu les deux. Hein. Alors, je vous dirais que pour l'instant, on manque, ça serait bien qu'on le fasse, y compris avec les inventaires qui sont représentés là, qu'on fasse justement un jour une étude détaillée de l'impact au niveau des professionnels. Voilà. Et surtout, nous, on l'a vu surtout au niveau régional et moi encore plus Charente-Maritime, hein, parce que c'est mon territoire de résidence. Mais parfois, ça m'est arrivé qu'il y a des tour opérateurs, y compris des associations travaillant avec des tour opérateurs qui cherchaient des produits un peu clés en main, de nous contacter en disant, voilà, on a lu le livre qui est à l'inventaire, on a consulté la base, est-ce que vous pouvez nous apporter des compléments d'information pour qu'on puisse finaliser ou aménager en quelque sorte ce circuit. Voilà. Mais il ne faut pas l'oublier, hein, ça reste pour l'instant des niches, hein, au niveau des tours opérateurs. En revanche, les individus, les familles, quand ils viennent, souvent, eux ont déjà fait ce travail d'identification, de recherche des lieux à parcourir, hein, avant de venir.
Bonjour, Zabaou Liman, je suis chargée de mission coopération et francophonie au pays Marais-Oléron, en Charente-Maritime. Et bon, j'ai pas de questions particulières, je voulais juste, entre guillemets, confirmer l'utilité des structures et des personnes qui sont aujourd'hui ici présentes, parce que nous menons depuis juillet 2013 un projet de coopération qu'on a intitulé « Faire de la francophonie un levier de développement local », qui porte sur plusieurs thématiques, dont deux thématiques qui sont la jeunesse et le tourisme. Et en matière de jeunesse, heureusement qu'il y a des associations et des régionales comme alors Louisiane, Boutonne, Châtellerault, pardon, Acadie et Québec, qui a son pendant en Charente-Maritime, enfin qui a plusieurs pendants, dont un à La Rochelle, qui est le Pays Rochelais-Québec, avec lequel nous avons travaillé l'été dernier pour pouvoir envoyer effectivement des jeunes dans le cadre des emplois d'été, parce que nous avons un partenaire au Québec qui est l'île d'Orléans, qu'on compare bien souvent de manière géographique, touristique, etc., à l'île d'Oléron. Mais aussi, comme je disais, on a des actions sur le secteur touristique. Et là, nous sommes en train de travailler avec un partenaire qui est aussi du département de la Vienne, qui est le Pays Loudunais, qui donc n'est pas très loin de la ligne acadienne, qui est à Loudun, qui est à la maison de l'Acadie, qui accueille régulièrement des touristes acadiens, canadiens, qui viennent effectuer un travail de mémoire et effectuer du tourisme, on va dire, de mémoire sur ce territoire-là. Nous avons un autre partenaire qui est le Pays d'Avder et d'Iton, en Haute-Normandie, qui a aussi un lien très fort avec le Québec. Et avec ces territoires français, nous essayons de développer un parcours touristique qui partirait soit de Charente-Maritime pour aller jusqu'en Haute-Normandie, soit de Haute-Normandie jusqu'en Charente-Maritime en passant par la Vienne, et permettre à des touristes canadiens qui viennent non seulement de nos territoires partenaires, mais aussi du Canada ou de Louisiane de manière globale, qui viendraient donc visiter des lieux de mémoire qui leur rappelleraient soit leur histoire, soit qui leur rappelleraient leur histoire. Donc c'était juste pour rappeler l'utilité finalement des recherches que vous menez, et puis des associations et des régionales de France-Québec. Voilà. Merci. Alors oui, effectivement, je vous ai présenté que deux axes de coopération que nous menons avec donc des territoires français et canadiens, mais nous avons aussi deux autres axes qui sont un axe culturel, et dans cet axe-là, nous essayons de développer un festival qui s'appelle le Festival des cultures francophones. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en valeur justement ces différentes cultures. Bon, en Charente-Maritime et de manière plus globale, en Poitou-Charentes, nous avons un lien historique assez fort avec le Québec et le Canada, mais nous essayons de mettre en valeur les cultures francophones au sens large du terme, donc aussi bien africaines, asiatiques, etc. Donc effectivement, ce festival qui a lieu chaque année, en fin d'année, au mois de novembre, tout début novembre, qui est pluridisciplinaire, propose des activités de type spectacle vivant, conférences, expositions, cinéma, contes, etc., avec pour inviter donc des artistes et des intervenants qui viennent du monde francophone. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Sinon, on enchaîne avec deux.
Marie-Cécile Allard, je suis paysagiste concepteur à Poitiers. C'était juste un petit témoignage en fait par rapport à l'adaptation des méthodes par rapport aux gens qu'on interroge. Donc quatre étudiants de l'école de paysage de Bordeaux ont fait une étude dans le Ruffécois sur la mobilité. Et en fait, donc ils ont chacun utilisé un moyen de transport différent. Et pour collecter leur travail, finalement, ils ont fait une carte, genre carte du tendre, sur une grande feuille blanche, sur laquelle chacun a écrit ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait vu, etc. Et en fait, pourquoi je le dis, c'est que quand ils ont voulu interroger les habitants, en fait, sur leurs pratiques, etc., ils leur ont montré cette carte. Et du coup, ça parlait beaucoup plus aux gens que de se mettre autour d'une carte d'état-major. Et voilà, j'avais trouvé ça intéressant.
Merci pour ce petit clin d'œil de la cartographie mentale, si je peux dire.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On est très étonné souvent quand on travaille dans certains pays étrangers, francophones ou non, ça a rien à voir avec la langue, le fait que beaucoup de gens ne savent pas lire une carte. Voilà. Et nous, on le sait parce qu'on l'apprend dès tout petit à l'école. Ça fait partie de nos premiers repères, en fait. Passer de la réalité physique à l'abstraction cartographique. Voilà. Et on est étonné souvent que les gens, même un simple plan, ne savent pas le déchiffrer, parce qu'on ne leur a jamais appris à le faire. Voilà. Voilà, mais moi aussi, la première fois, je vous assure, ça a été une leçon aussi. Parce que ça me paraissait une telle évidence de lire une carte, mais en fait, non. Ça ne l'est pas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de par le monde. Ouais.
Bien, merci. On enchaîne peut-être donc avec deux autres témoignages très concrets qui viennent tous les deux de Tours. Donc voilà, Tours-Poitiers, c'est pas très loin finalement. Et on a parlé de la commu tout à l'heure. Voilà, c'est peut-être pas tout à fait le découpage territorial qu'on nous propose, mais on verra bien. En tous les cas, j'appelle donc Stravos Adjiani, président de LinguaFest 37, et puis Loïc Bienassi, chargé de mission auprès de l'Institut européen d'histoire. Et peut-être commencer par l'Institut d'histoire, européen d'histoire, et ensuite enchaîner avec LinguaFest. Quel rapport entre la gastronomie et la francophonie, finalement, vaste débat.
Oui, donc je suis chargé de mission au sein de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à Tours. Ce que je vais vous proposer ici est d'une nature un peu différente de ce qu'on a pu écouter jusqu'ici, puisque ce n'est pas tant un compte-rendu d'expérience, enfin... Je me conforme à la commande qui m'a été faite, qui était de réfléchir, alors d'un point de vue un peu historique, à la façon dont la gastronomie a pu être un vecteur du français. Donc encore une fois, j'appartiens moi à l'IEHCA, basé à Tours. Donc on travaille sur toutes ces thématiques liées à l'alimentation, selon l'alimentation vue, étudiée par les sciences humaines, perspective historique, sociologique, anthropologique. À titre personnel, je suis plus de formation historien. Et donc voilà, donc c'est juste un petit survol de cette question, en quoi la gastronomie a pu être un vecteur donc, du français à travers le monde. Parce qu'il est évident que finalement on a là deux éléments clés sans doute du rayonnement culturel français, historiquement, la langue d'une part évidemment, et la gastronomie. On a sans doute deux marqueurs forts de l'identité culturelle française. Alors je veux dire la langue, on pourrait dire ça va de soi, forcément une culture est associée à une langue. À mon avis, ce n'est pas toujours si simple que ça. Et ensuite, je pense qu'il y a des nations, on va dire ça comme ça, qui investissent sans doute plus fortement leur langue que d'autres, d'une certaine façon, en tant que marqueur de leur rayonnement. Et clairement, pour la France, c'est le cas. Et même chose, la gastronomie pour la France est clairement quelque chose qui... assure son rayonnement à l'international, c'est-à-dire que les Français se perçoivent eux-mêmes comme un pays de gastronomie, un pays où l'on mange bien, et les étrangers associent clairement la France aussi à cette caractéristique, ce qui est évidemment, là encore, pas le cas de tous les pays. C'est le cas d'autres pays, je pense à l'Italie, au Japon, mais c'est pas le cas de tous les pays. Personne associe Suède et gastronomie, par exemple, ce qui évidemment n'est pas un crime, c'est juste un fait. Cette caractéristique, on peut dire, elle prend cette association entre France et gastronomie, mot qui n'était pas encore employé à cette époque, elle prend sans doute ses racines au XVIIe siècle, au règne de Louis XIV. C'est d'ailleurs assez révélateur parce qu'on peut dire, si on réfléchit encore à cette association entre langue et cuisine, et haute cuisine en l'occurrence, c'est sans doute à partir, j'ai envie de dire, on a deux visages de ce rayonnement français, fin XVIIe siècle et siècle des Lumières. Au XVIIIe siècle, le français est la langue de communication internationale. C'est la langue de l'aristocratie, la langue des élites. Ça ne fait aucun doute. Et bien, c'est à ce moment-là aussi où la cuisine française, et là aussi cuisine aristocratique, conquiert toutes les tables d'Europe. C'est-à-dire que même en un siècle, le XVIIIe siècle, où nous sommes en guerre constante, quasiment constante avec l'Angleterre, on parle parfois de deuxième guerre de 100 ans, même pour cette période-là, eh bien, les aristocrates anglais engagent des maîtres d'hôtel français, des cuisiniers français, parce qu'il est de bon ton d'avoir, pour tenir son rang, d'avoir ces représentants du savoir-faire français. D'ailleurs, il y a tout un cliché, enfin, je ne vais pas me perdre dans beaucoup de détails, où en fait, on moque la France, pays efféminé, avec sa cuisine trop raffinée, face au symbole anglais John Bull, qui lui mange de la viande de bœuf, viril. Et donc il y a tout un cliché, tout un discours pour déprécier finalement la France vis-à-vis de sa cuisine. Et dans le même temps, les aristocrates anglais n'imaginent pas ne pas avoir de Français à leur service dans leur cuisine, et peut-être même plus encore qu'en tant que maître d'hôtel. Donc cette association entre France et haute cuisine, j'emploie des termes un peu anachroniques, mais elle date clairement de cette époque-là, du XVIIIe siècle. Et elle ne s'est finalement jamais démentie depuis. La Révolution française n'a rien changé à cela, au contraire, même d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qui a rayonné complètement au XIXe siècle et à la limite, sa remise en cause est finalement relativement récente. Donc, on a ce rayonnement de la gastronomie française, 18e, 19e siècle. Alors, évidemment, ça se traduit par la langue aussi. Ça se traduit par des noms de plats, par des fonctions. Par exemple, pour dire maître d'hôtel en anglais, le terme reste maître d'. J'avoue que je ne savais pas, j'ai appris ça assez récemment. Donc, c'est encore chef, est un mot aussi qui circule, restaurant. Restaurant est un mot qui a été adopté dans toutes les langues. J'y reviendrai. Donc, on a tout un tas comme ça de mots qui sont liés à des techniques, à des noms de plats, à des noms de produits. C'est évidemment la langue qui circule, le français qui circule à travers la cuisine et la gastronomie. Alors, il y aura évidemment tout un tas de points à aborder. Je vais me contenter de quelques éléments, hein, une sorte de survol un peu impressionniste parce que le sujet est finalement en réalité très complexe. Si je m'arrête sur le restaurant, par exemple. Le restaurant, donc, alors, on va dire invention française, c'est ce qu'on retient généralement comme idée. Un restaurant, pour un Français de 1700, c'est un bouillon. C'est-à-dire, c'est un bouillon roboratif avec lequel on restaure nos forces. On peut manger un restaurant, si vous voulez, on mange un bouillon. Donc là, on est en 1700. Et finalement, le restaurant, ça a été quoi? Ça a été le lieu où on mangeait des restaurants, où on mangeait ces bouillons-là. Donc il y a tout un tas d'histoires qui circulent autour de l'invention du restaurant. On l'attribue notamment à un certain boulanger qui, en 1765, aurait commencé à servir dans ce lieu où il n'aurait dû proposer que des restaurants, aurait commencé à proposer des ragoûts. Et il y aurait eu la corporation des traiteurs qui s'y serait opposée, il y aurait eu un procès, Boulanger aurait eu gain de cause, et ce serait 1765 l'acte de naissance des restaurants. En réalité, c'est absolument pas documenté, si vous voulez. Par contre, une chose est claire, les années 1760, c'est le moment où apparaît ce nouveau lieu de consommation qu'est le restaurant. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce restaurant? C'est donc une vraie invention parisienne. En réalité, on peut sans doute trouver des racines anglaises dans les tavernes du début du... taverne destinée à la gentry, hein, plutôt aux membres du Parlement anglais, donc pas du tout la taverne malfamée. Donc il y a sans doute des racines anglaises, mais bon, peu importe, hein, on va écarter vite cette explication. Ce restaurant, qu'est-ce qu'il a d'original? Eh bien, c'est un lieu où on est assis à une table individuelle. On commande à la carte, avec des prix en face des plats. On peut manger donc seul. C'est finalement l'individualisation du service. C'est ça, le restaurant. Tout de suite, par contre, c'est destiné à des élites. Parce que qu'il y ait individualisation, dit un certain service, précisément, un certain coût. Donc, le restaurant, c'est d'abord un lieu destiné aux élites sociales. Donc, invention parisienne, invention qui va prospérer avec la Révolution. Alors, une des légendes, parce qu'en réalité, ce n'est pas tant attesté que ça, est de dire que le restaurant est même né de la Révolution, ça vous le trouverez souvent écrit, dans le sens où on explique que, puisque la gastronomie, si on veut française, celle dont je parlais tout à l'heure, prospérait au sein des maisons aristocratiques, parce que les grands chefs, les grands maîtres queues, étaient au service de l'aristocratie. La Révolution les a mis au chômage, et que, du coup, qu'ont-ils fait? Ils ont ouvert des restaurants dans Paris. Alors, il y a une part de vérité, on a des exemples, et juste estimer que c'est pour cela que le restaurant a prospéré, c'est sans doute très très court comme explication. Quoi qu'il en soit, on a ce lieu nouveau, très parisien, que les étrangers découvrent. Alors, là aussi, un des clichés est de dire que, notamment grâce aux guerres napoléoniennes, parce que quand Paris a été pris, occupé par les armées étrangères, ils ont découvert cette qualité de vie parisienne dont le restaurant était un des grands attributs. Le haut lieu des restaurants, c'était le Palais Royal, où là on trouvait tous les meilleurs restaurants de Paris. Donc tout d'un coup, ce symbole de la vie parisienne va essaimer dans tous les pays, en Europe tout d'abord, assez rapidement aussi en Amérique, et on va du coup dans toutes les langues finalement adopter ce terme de restaurant. Et le restaurant, c'est donc un mot, évidemment, mais c'est aussi le socle de cette image gastronomique de la France. Parce que c'est désormais le lieu, ce ne sont plus les maisons aristocratiques, c'est désormais le lieu où on invente, où on crée, où on crée de nouveaux plats. Alors, attention, les chefs français aussi, je vais y venir tout de suite, vont aussi travailler dans les maisons aristocratiques à l'étranger, par contre. C'est notamment le cas en Russie, hein, où on a justement tout un engouement. Je vais y venir tout de suite. Donc, on a là ce qui constitue, encore une fois, certainement le socle, la base de cette association entre la France et la gastronomie, et la haute cuisine. Et on a aussi, finalement, un lieu qui va permettre à la cuisine française de se répandre, de gagner un peu toute l'Europe. Alors, on pourrait, si on devait schématiser, dire qu'il y a trois choses qui permettent, qui ont permis et qui permettent toujours d'ailleurs à la haute cuisine française de voyager, de finalement d'être aujourd'hui présente sur l'ensemble du globe. Il y a les cuisiniers eux-mêmes, tout simplement, hein, ça, j'y reviendrai. Il y a, j'ai envie de dire, les mangeurs, dans le sens d'une sorte d'adhésion des consommateurs à cette cuisine, le fait qu'elle est estimée bonne, tout simplement, ça ne va pas de soi. Hein. Je veux dire, on peut, gérer une réputation, c'est aussi une construction qu'on se fait. Je veux dire, ça ne veut rien dire, une bonne cuisine, dans l'absolu. Et il y a aussi toute une médiatisation de cette cuisine, c'est-à-dire alors, ce qui est d'abord passé par l'écrit. L'écrit, ça a été d'abord des ouvrages de cuisiniers, bien sûr, des ouvrages de recettes, et ça a été aussi tout un discours critique qui s'est élaboré. Tout un discours critique, et on a l'habitude de dire que les Français ont aussi inventé le discours gastronomique, la critique gastronomique. Le pionnier dans ce registre est Grimaud de la Reynière, hein, qui justement commentait, analysait, détaillait, jugeait, notait ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qu'il trouvait grâce à ses yeux. Donc, il y a aussi évidemment Brillat Savarin dans un autre registre, non pas critique, mais Brillat Savarin, La physiologie du goût, 1826, c'est le fait de traiter de la gastronomie comme d'un objet digne de réflexion. C'est-à-dire, on consacre un ouvrage entier, La physiologie du goût, à parler du bien manger, à en traiter comme d'un sujet sérieux. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Donc, il y a ce statut nouveau qu'acquiert. D'ailleurs, le mot gastronomie en français, 1801, si je ne dis pas de bêtises, Joseph Berchou, un poème qu'il écrit, et c'est lui qui crée ce mot, plutôt qui recrée ce mot, qui, justement, qu'on n'employait absolument pas, et qui, c'est tout à fait révélateur, vous voyez, c'est au même moment où il y a ce restaurant qui prospère, c'est presque un changement de statut du culinaire. Ça devient un objet digne de discours. Et ça, c'est quelque chose, on osera dire, que la France a inventé, d'une certaine façon, qui ensuite s'est répandu, bien évidemment. Quand on lit, par exemple, l'encyclopédie au XVIIIe siècle, on voit que la cuisine, l'alimentation, n'a pas du tout ce statut-là sous la plume des encyclopédistes, sous la plume du chevalier de Jaucourt, par exemple. Alors, donc, il y a toute cette légitimation, je vais faire bref, hein, qui passe par tout un tas de médias, par exemple les guides touristiques. 19e siècle, l'apparition des guides touristiques, eh bien très tôt, les guides touristiques, par exemple le grand guide touristique de la première moitié du 19e siècle, le Baedeker, eh bien l'étalon qu'il choisit pour juger d'un bon restaurant, c'est l'étalon français, c'est-à-dire qu'on juge la qualité des restaurants selon, finalement, en estimant que ce qui se fait de mieux, c'est la cuisine française. Et les Baedeker, ce sont des guides qui sont traduits en anglais, en allemand, en français. C'est des guides qui sont connus dans toute l'Europe. Donc il y a tout de suite un discours légitimant. Et on pourrait trouver comme ça tout un tas, une vraie continuité. Aux États-Unis, c'est évident, avec à partir de la fin du 19e siècle, je crois que c'est 1887, si je ne dis pas de bêtises, le magazine Epicure, qui, là aussi, je veux dire, la cuisine qui se pose comme une référence, c'est la cuisine française. Et là aussi, tout un tas de publications qui s'étalonnent. D'ailleurs, une de ces publications, 20e siècle, milieu 20e siècle, je ne voudrais pas dire de bêtises, le titre, c'est « Bon appétit ». Le titre, d'ailleurs, c'est une expression américaine, plus qu'anglaise. Hein. C'est les Américains qui utilisent plus cette expression. C'est quand même révélateur que pour dire « Bon appétit », en anglais, aux États-Unis, on emploie une expression française. Là, ça en dit très long sur les choses. Et évidemment, c'est pour ça que je parlais de médiatisation, on peut comme ça dérouler une sorte de fil rouge qui va jusqu'à Julia Child, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui publie des ouvrages, qui popularise la cuisine française auprès du grand public américain, qui a une émission de télévision. Donc voilà, il y a une vraie continuité de médiatisation de la cuisine française auprès d'un large public Et je pense d'ailleurs que le relais américain est très fort à ce niveau-là. Publication, médiatisation, pardon, et qui rencontre un public. 19e siècle, ce public, c'est clairement les élites internationales. Clairement, la cuisine française, elle n'a jamais perdu ce statut, ce qui peut être un handicap d'ailleurs par rapport à d'autres cuisines et dans certains contextes, ce statut de cuisine d'élite. Et c'est la cuisine, encore une fois, de référence, c'est pour marquer son statut social, on mange français dans des restaurants d'inspiration française. C'est quelque chose qui est très fort en Europe, aux États-Unis, j'y reviendrai. Ça ne fait aucun doute. Le meilleur exemple, c'est les palaces. Fin du 19e siècle, les palaces apparaissent. Eh bien, on a Escoffier qui va organiser, qui s'associe à Ritz pour organiser les cuisines de tout un tas de palaces en Europe, qui va à l'hôtel Savoy, qui est embauché à l'hôtel Savoy à la fin du 19e siècle, pour, là aussi, réorganiser l'ensemble des cuisines. Donc voilà, la référence, ce sont les Français dans cette cuisine, alors, cuisine de palace, c'est-à-dire la cuisine des élites internationales. Donc, le public a une sorte d'adhésion parce qu'on marque son statut en consommant cette cuisine française. Et enfin, dernier élément, évidemment, la mobilité des hommes. Mobilité des hommes, alors on a à chaque fois les exemples qu'on sort, Carême, roi des cuisiniers, cuisinier des rois, qui a été au service de l'empereur d'Autriche, qui a servi à Saint-Pétersbourg, mais qui n'a pas servi le tsar, hein, contrairement à ce qu'on dit, il est resté très brièvement, qui a servi le futur roi d'Angleterre, George IV. Donc voilà, Carême, qui a Urbain Dubois plus tard, qui a servi l'empereur d'Allemagne, Guillaume Ier. Voilà, il y a autant je disais que, en effet, le restaurant est le lieu qui permet à la cuisine française d'essaimer, mais ces hommes, lorsqu'ils voyagent, voyagent aussi encore, j'ai envie de dire, la France est une république, ça a dépendu, hein, au 19e siècle, mais a été une république durant un certain nombre d'années au 19e siècle. Par contre, ces chefs-là, ils vont dans des cours étrangères, hein, donc, notamment, encore une fois, Russie, Allemagne, Autriche, enfin, Empire austro-hongrois. Donc, la circulation des hommes, des chefs, ça, c'est une tradition qui remonte donc, je l'ai même dit, au 18e siècle et qui ne s'est jamais démentie depuis. Aujourd'hui, on voit bien, avec des Ducasse, des Robuchon, qui ont une quinzaine d'établissements à travers le monde, en Extrême-Orient, en Amérique. Donc, il y a vraiment, là aussi, quelque chose où on peut voir une véritable continuité de façon incontestable. Et inversement, on a aussi des chefs, beaucoup de chefs étrangers qui viennent se former en France. Hein, Ferran Adrià, ça a été son cas. Gordon Ramsay, ça a été son cas. Donc, on a, là aussi, des échanges permanents. Et ces chefs étrangers, Gordon Ramsay, dans son restaurant, sert encore la tarte Tintin. Donc, on a aussi ces échanges qui se font et qui posent la cuisine française comme une référence. Bon, j'avais d'autres exemples à donner, mais je vais faire trop long, donc j'arrête là. Pour me recentrer sur la question de la langue. Alors oui, juste une remarque quand même. Il ne s'agit pas de... là, j'adopte un point de vue où je réfléchis à la façon dont la cuisine française se diffuse. Évidemment, ça ne va pas que dans un sens, hein, vous en doutez. La cuisine française est aussi influencée par l'étranger, ça va de soi. Elle l'est même plus que jamais, sans doute actuellement, même si au fond, on a aussi toute une histoire longue où on peut très bien voir depuis de très nombreuses décennies comment des produits, des façons de faire venues de l'étranger ont influencé la cuisine française, ça ne fait aucun doute. Et en plus, tout le paradoxe, c'est que cette cuisine française est mondiale, dans le sens où elle est présente partout, mais en même temps, elle occupe un créneau finalement assez restreint. C'est-à-dire que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la pizza, par exemple, est un produit de grande consommation. La cuisine française n'est jamais réellement un produit de grande consommation. Elle garde ce statut élitiste. On peut d'ailleurs, je pense ici, faire un parallèle avec la langue, d'ailleurs. Le français est une langue aujourd'hui officielle de la diplomatie, elle le reste. Elle a été au XVIIIe siècle et encore largement au XIXe siècle, bon, on pourrait discuter de son statut actuel, mais une langue d'élite. On pourrait dire que la cuisine, finalement, a suivi un chemin un peu parallèle. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc, ce qui, d'ailleurs, encore une fois, est un handicap, sans doute, pour tout un tas de niveaux. Alors, pour voir comment cette diffusion de la gastronomie a joué aussi sur la langue, je vais faire très bref, comment des mots ont pu circuler. Si on regarde l'exemple américain, c'est tout à fait révélateur. Si on regarde la carte d'un restaurant qui s'appelle le Balthazar, un restaurant connu à New York, on voit qu'on trouve différents statuts. Si on regarde le menu, on voit qu'on trouve différents usages du français dans la carte. On va avoir des plats indiqués tels quels, sans le moindre détail, brandade de morue, aucun détail. Par contre, pour d'autres plats, frisés au lardon, là on traduit pour expliquer une explication de ce dont il s'agit. On va avoir d'autres plats totalement en anglais, et puis on va avoir des choses un peu mutantes, j'allais dire, avec duck confit, confit de canard. À moules frites, par contre, on va le laisser tel quel. Donc on a tout un jeu sur la langue où on juge quelquefois qu'il est bon de traduire, quelquefois de faire un entre-deux. Voilà, il y a tout ce jonglage un peu permanent, mais où il y a une alliance, finalement, une alternance du français et de l'anglais. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas nouveau. Si on regarde une carte de 1934 d'un restaurant qui s'appelait le Rainbow Room, on trouve Essence of Tomate Xavier, Green Turtle au Vieux Madère, donc Vieux Madère, bon, produit français, je ne sais pas, Filet Mignon au Primeur, alors avec un O pluriel, mais Primeur singulier, parce qu'on est dans un français un peu approximatif. Et ce qu'il faut voir, c'est que si on remonte, même au 19e siècle, la vraie pénétration de la cuisine française identifiée en tant que telle aux États-Unis, on est à partir des années 1860-1870. Là, vraiment, on se dit, on va, les élites, manger français, des produits français, des savoir-faire français. Mais par contre, les mots français vont être présents dans les restaurants américains, enfin, restaurants américains, je vais revenir tout de suite, bien avant, dès les années 1830. En gros, quand le restaurant apparaît aux États-Unis, tout de suite, on emploie du français dans les cartes. Alors là aussi, avec de façon à géométrie très variable. Une institution au 19e siècle à New York, c'était Delmonico. Vraiment le restaurant, un des restaurants les plus connus au 19e siècle. Et on voit tout au long du 19e siècle, sa carte va être en français. Sa carte va être en français. Alors, saumon au beurre de Montpellier, galantine de poulet à la royale. Là, on peut imaginer des savoir-faire français derrière ça. Et par contre, filet de bœuf à la Pocahontas, saumon à la Franklin. Bon, ça, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc, il y a cet usage du français, de l'anglais. Et souvent, dans les restaurants américains, ce qu'on trouve au 19e siècle, on a les plats principaux, ce qui constitue les piliers de la carte vont être en anglais, les viandes en sauce, etc. Et par contre, les entrées, et d'ailleurs le mot français entrée est employé, c'est-à-dire les plats qui réclament une plus grande technicité, qui sont plus complexes, là on va utiliser des mots français. Ce sont des plats qui changent beaucoup plus, si vous voulez. Donc tout ce qui est entrée froide, alors ce qui fait que par exemple on va trouver timbales de macaroni à la vénitienne. Alors, je ne vous appelle pas, mais tout est dans un français à l'orthographe vraiment plus qu'approximatif. Et voilà, toutes ces entrées froides, complexes, vont rester en anglais. Alors, bon, je vais faire bref. On trouve finalement, le paradoxe, c'est qu'on va avoir des restaurants qui vont être ceux qui ont le meilleur standing, pardon pour l'anglicanisme, qui vont clairement pratiquer au cours du 19e siècle aux États-Unis une cuisine française et qui vont en effet employer des mots français pour la qualifier. Et puis on va avoir des restaurants un peu plus milieu de gamme qui là vont utiliser plus un vernis français. C'est-à-dire que pour des plats qui n'ont des fois rien de français, on va quand même distiller quelques mots, notamment pour les entrées comme je le disais, parce que ça fait bien d'une certaine façon. Il y a déjà cette idée du français qui fait bien lorsqu'on parle d'alimentation et très tôt dans le siècle, dès le milieu du 19e siècle. Donc il y a finalement ce paradoxe avec, très rapidement aussi, une certaine hostilité aux États-Unis. Par exemple, il y a un ouvrage de 1910 qu'ils appellent The Menu Maker, qui est un ouvrage qui conseille les restaurants pour dire voilà comment vous devriez présenter votre menu, l'élaborer, etc., etc., 1910. Et l'auteur explique qu'il était à Cincinnati, il trouve de la chair de crabe Gibson, de la poitrine de volaille grillée, du cœur de laitue gastronome, et il s'indigne un peu, il dit aux États-Unis, on devrait avoir des plats qui portent des noms américains. Et donc son conseil, c'est si vous, restaurateurs, montez votre carte, écoutez, utilisez des noms américains. Donc l'hostilité vient très tôt, on est en 1910. Donc on a... Alors c'est quelque chose qui existe encore, j'ai envie de dire, dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire que on a la tentation, mais de façon un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de tension entre le fait que le français fait bien, mais par contre, il rend la carte incompréhensible. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas ce qu'on mange si on se contente de mettre des belles appellations françaises. Et ça, ce problème existait déjà au 19e siècle. Il existe toujours aujourd'hui, avec sans doute un positionnement un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, généralement, les restaurants qui vont vouloir utiliser ces noms français, ce sont réellement les restaurants qui veulent faire de la cuisine française, qui prétendent à cela en tout cas. Tandis qu'au XIXe siècle, comme j'expliquais, c'était un peu plus le grand n'importe quoi où on mettait des noms français, histoire d'eux, d'une certaine façon. Alors cette diffusion, si je prends un autre exemple, si on prend l'exemple de la Russie, alors j'ai demandé tout de suite l'indulgence parce que j'espérais qu'il n'y ait pas de russophones dans la salle, il y en a. Si on prend l'exemple de la Russie, là on est dans une autre configuration, j'ai envie de dire, États-Unis, République, on est là dans le restaurant, si vous voulez. Russie, c'est autre chose, 19e siècle. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La cuisine française s'exporte comment ? Par des chefs qui vont au service du tsar, de grands nobles. Voilà, cuisine française comme référence internationale. Et là, ce qui est amusant dans les mots, c'est le glissement sémantique. Il y a plein de mots français, mais qui ne veulent absolument pas dire le sens que nous, et en tout cas au fil du temps, le sens que nous, on donne à ces mots. Par exemple, le terme de vinaigrette va qualifier une salade. Alors une salade faite de betteraves, pommes de terre, carottes et assaisonnée par de la mayonnaise, avec de la mayonnaise, parce que dans la cuisine russe, de la mayonnaise, il y en a énormément, hein, pour les salades notamment. Donc vinaigrette n'a rien à voir avec notre vinaigrette. Julienne n'a rien à voir avec des légumes coupés en lanière, ce sont des champignons dans la crème aigre qu'on passe au four et qu'on sert très chaud. Côtelette, ce sont des pâtés de viande hachée. En fait, alors légumes, poissons, en fait, ce qui compte, c'est plus qu'il s'agisse de pâtés, des pâtés hachés, de choses diverses et variées, et qui connaissaient une certaine popularité au temps de l'URSS, parce que comme la viande de qualité se faisait un peu rare, finalement, cette façon de cuisiner, sans doute, faisait mieux passer la pilule, si je puis dire. La charlotte, qui n'a rien à voir avec notre charlotte. Le paradoxe, d'ailleurs, c'est que Carême avait une recette de charlotte à la russe, qui avait été faite en l'honneur du tsar Alexandre Ier, mais que par contre, je crois que la charlotka, d'après ce que j'ai compris, j'avoue que je n'ai pas une connaissance fine de la question, ressemble à une sorte de clafoutis, en fait. C'est un peu le gâteau, m'a-t-on dit, que tout le monde peut réussir, le gâteau le plus simple, et quand on ne sait pas très bien cuisiner même les desserts, la charlotka, on peut la réussir sans trop de complications, je crois. Et donc, il y a comme ça tout un tas. Le veau Orlov, par exemple, l'expression russe pour dire veau Orlov, c'est veau à la française, viande à la française. Cette recette a été conçue par qui ? Par Urbain Dubois, qui était au service de l'ambassadeur russe en France. Vous voyez, donc, on a là des mots qui passent et qui, évidemment, sont ensuite, dont le sens glisse complètement. Autre exemple. Et en fait, on avance dans le temps parce que là, alors je connais mal la question, vraiment. Celui du Japon qui maintenant, il y a un tel engouement pour la cuisine japonaise, ou en tout cas pour l'idée qu'on s'en fait. On reçoit beaucoup, on a le sentiment que vraiment l'influence du Japon est forte. Et c'est vraiment mal mesuré l'influence de la cuisine française au Japon. Et tout un tas de termes. Et là, je pense que c'est beaucoup plus récent. Moi, je ferai remonter ça aux années 60. Tout un tas de termes japonais sont pris du français, mot pour mot, prononcé à la japonaise. Mais alors, restaurant, évidemment, pâtisserie, boulangerie, chocolatier, gâteau, chocolat, café, café au lait, galette, crêpe, entrée, apéritif, cocotte, ratatouille, bouillabaisse. Et moi, quand on va au Japon, on trouve par exemple les gâteaux qui s'appellent les Mont Blanc. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est à la crème de marron, ce qui entoure une sorte de meringue et de crème fouettée. C'est un gâteau français, franco-italien, qui est connu en France, mais sans plus. Au Japon, on le trouve absolument partout. On le trouve de façon industrielle dans les gares, on le trouve de façon très raffinée dans des pâtisseries françaises ou non. On trouve une version japonisée avec Mont Blanc au matcha, vous savez, ce thé vert. Donc là, évidemment, le nom est Mont Blanc, hein, c'est le nom français qui a été adopté. Donc là, on a une diffusion, vous voyez, de tout un tas de noms qui sont des savoir-faire, des lieux, des fonctions, des gâteaux, des produits, dans le japonais, et les mots sont repris tels quels. Donc clairement, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, hein, bien sûr, mais j'ai déjà fait très long, clairement, la gastronomie est un véhicule pour la langue française. Ça ne fait aucun doute. Hein. Ça ne fait aucun doute. Alors, encore une fois, et je terminerai là-dessus, il ne s'agit pas de dire que ça ne marche que dans un sens. À longueur de temps, nous-mêmes, nous adoptons des mots, des recettes. On sait que, par exemple, aussi, on a le même phénomène que ce que j'expliquais pour la Russie. Un panini, c'est un sandwich en Italie. Pour nous, c'est quelque chose de très précis, un panini. Ce n'est pas un sandwich au sens général. Donc, nous aussi, on s'approprie, bon, c'est le phénomène enfin, d'acculturation, j'ai envie de dire, tout à fait logique. Donc, il ne s'agit pas de dire que ça ne marche que dans un sens, évidemment. Par contre, dans le cas français, c'est à la fois, encore une fois, un phénomène assez restreint, d'une certaine façon. Je vais expliquer pourquoi, parce que ça ne concerne que des, finalement une frange assez limitée, souvent, des populations. Et c'est un phénomène mondial également, et c'est un peu tout le paradoxe de la situation. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Sinon, on passe au deuxième intervenant, donc sur le frottement des langues, finalement, hein, puisque Lingua Fest, c'est tout à fait ça.
Oui, effectivement, je suis Stavros Sagienet, je suis président de l'association Lingua Fest 37. Lingua Fest, donc la fête des langues, bien sûr. 37, pourquoi 37? Parce que l'ambition en fait de créateur de cette association, c'est que ces activités se multiplient de la même façon partout dans tout le département de France et d'ailleurs. Et si on a réussi en partie de multiplier l'une de nos activités, qui est les cafés des langues, au niveau du festival, on a un peu plus de mal. Il y aura peut-être aujourd'hui peut-être de demander de la recette si j'arrive à vous convaincre de la qualité de ce que nous faisons. Alors, l'association Lingua Fest a été créée en fait en 1996 par un linguiste américain qui s'est trouvé à l'université de Tours et qui, avec des associations d'amitié d'étrangers avec la Touraine, eh bien, ils avaient les uns et les autres des ambitions communes. Denis Kiff, un passionné d'espéranto et des langues étrangères, eh bien, a mis au point, disons, une petite méthode simple qui permettait de faire découvrir à quelqu'un qui ne connaissait aucune langue ses rudiments de base en une trentaine, quarantaine de minutes. Et puis les associations de la Touraine, eh bien, elles avaient envie de se faire connaître, justement. On a entendu tout à l'heure France-Québec. Eh bien, il y a des dizaines d'associations comme ça en Touraine et qui voulaient se faire connaître, faire partager leurs activités et trouver des adhérents donc, en Touraine. Alors, je vais vous présenter les objectifs de l'association, ses partenaires, les acteurs, les contenus de nos activités. Et puis je terminerai par un petit film de 4-5 minutes qui montre un petit peu le Festival des langues, qui est notre principale activité. Le Festival des langues, donc, qui se déroule sur une semaine à peu près, une fois par an, au mois de novembre, troisième semaine de novembre en Touraine. C'est notre activité principale, sur laquelle je reviendrai un peu plus tout à l'heure. Le Café des langues, qui est une activité qui se déroule toutes les semaines dans un grand café en Touraine, et qui permet aux gens de venir parler librement autour d'un verre, de façon très détendue d'une des langues qui est proposée ce soir-là. Et puis, nos mini-festivals dans les écoles que nous menons en partenariat avec l'inspection académique d'Indre-et-Loire. Et puis, une nouvelle activité qui est en cours de réalisation, qui s'appelle Tandem, et qui consiste à trouver un partenaire qui va apprendre votre langue à condition que vous lui appreniez la vôtre. Voilà un petit peu l'idée. Alors, quels sont donc les objectifs de l'association? Son principal objectif, en fait, c'est de promouvoir l'apprentissage des langues étrangères de façon ludique, dans un cadre ludique, et faire en sorte que cette impréhension que les Français ont, qu'ils disent qu'ils sont mauvais pour les langues, eh bien, soit levée, puisque c'est complètement idiot de croire que les Français ne sont pas bons en langue étrangère, moi, dans le cadre de ma profession, eh bien, j'ai pu voir des étudiants qui sont partis quelques mois à l'étranger, ils sont revenus, ils étaient quasiment bilingues, quasiment aucun accent. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème technique. Il y a plutôt des impréhensions, d'où notre objectif, c'est justement de lever ces impréhensions dans un cadre ludique, avec une méthode simple, dans un cadre qui comporte d'autres animations, la musique, la cuisine, des poésies, etc. etc. Et puis, la troisième activité, c'est aller directement dans les écoles et travailler avec les enseignants sur des thématiques autour de leurs projets d'année et intervenir 4-5 fois avec les mêmes intervenants pour, disons, appuyer un projet pédagogique qui est mené par les enseignants. Alors, qui sont nos partenaires? Bien sûr, l'éducation nationale, ça va de soi, que ce soit l'inspection académique, mais aussi l'université. Notamment le service des relations internationales qui permet aux étudiants étrangers lorsqu'ils arrivent en Touraine d'abord de trouver dans les cafés des langues un lieu où ils peuvent aller et rencontrer d'autres étrangers comme eux et on leur demande bien sûr de passer une heure en présentant leur propre langue sachant qu'il y a une contrepartie, quelqu'un leur parlera français pendant une heure. Donc c'est du donnant-donnant, c'est une espèce de convention implicite qui permet aux uns aux autres d'y trouver un leur compte, et surtout à ces étudiants de s'intégrer rapidement quand même dans la ville où ils arrivent, ils ne connaissent personne. Un autre partenariat avec l'Institut de Touraine, qui est un institut ancestral en Touraine et qui permet aux étrangers de venir passer un séjour d'un mois à un an en Touraine, apprendre la langue et bien sûr s'intégrer un petit peu dans la ville et découvrir bien sûr la façon de vivre des Français de Tourangeau et en même temps faire aussi découvrir leur langue et se sentir aussi un peu moins isolé. Et puis, nous avons bien sûr des partenariats institutionnels avec les collectivités, que ce soit la mairie, que ce soit le conseil général. À une époque, on avait l'Indrac, on avait la région, mais malheureusement, les partenariats restent tout simplement des encouragements, hein, puisque, comme vous le savez tous, les subventions ont quasiment disparu. Et puis, nous avons des professionnels qui sont dans les métiers des langues, comme par exemple Assimil, qui est un de nos principaux partenaires, et qui chaque année vient présenter ses produits aux visiteurs. Nous avons des librairies, bien sûr, de la ville de Tours. Nous avons des professionnels qui donnent des cours de langue à titre de profession. Voilà un petit peu donc les partenaires un petit peu autres que les associations, puisque les acteurs sont, bien sûr, essentiellement les associations dans un grand espace qui peut accueillir environ 50 à 60 stands. On a une quarantaine d'associations qui viennent présenter leurs activités. On a une dizaine de professionnels, donc comme Assimil et autres qui sont dans le même métier, les organismes des voyages qui viennent faire découvrir un petit peu les offres qu'ils proposent. Et puis, autour de ces associations, nous avons des adhérents individuels de l'association qui viennent, depuis des années, faire découvrir la langue qu'ils maîtrisent. Et nous avons aussi des gens de passage, ceux qui viennent par les biais des relations internationales de l'université, ceux qui viennent par l'Institut de Touraine, mais aussi on a des gens un peu atypiques qui sont parfois même des réfugiés politiques ou des gens qui sont dans la clandestinité et qui pour eux, c'est l'occasion pendant un week-end de faire découvrir leur langue, leur culture et c'est parler aux gens de façon découverte sans qu'ils aient peur que quelqu'un va les dénoncer hein, et se sentir valorisés et importants hein, au moins pendant cette quarantaine de minutes, ils ont le plaisir de présenter leur pays. Alors évidemment, je reviens un petit peu sur le festival et son contenu, qui se déroule en principe sur une semaine. Le lundi, on a le Café des langues, donc, qui se déroule de façon très intensive, lundi, parfois le mardi. Les vendredis, nous avons l'accueil des scolaires qui viennent dans l'après-midi, découvrir deux mini-cours des langues et puis une animation musicale. Et les soirs, nous avons des invités, des pointures, comme Ariette Walter, par exemple, grande linguiste française, donc qui viennent donner une conférence et dans un espace assez intéressant et très beau, qui est la mairie de Tours. Et les lendemains, à partir de 11h jusqu'à 19h, eh bien, toutes les heures, dans une dizaine de salles, eh bien, vous avez la possibilité de découvrir une langue différente. Bon, je vais juste vous lire, par exemple, ce qui se passe à 13h, ce qui s'est passé à 13h le 22 novembre, il y avait du grec, du LSF, du galicien, du tamoul, du polonais, du chinois, de l'amérique. Et puis, il y avait deux conférences donc, qui s'est déroulées en même temps. À 15h, il y avait du morse, de l'italien, du russe, du slovène, l'alphabet hébreu, du malgache, et de l'anglais aéronautique. Bon, à 18h, il y avait du langage Q, du français pour étrangers, du danois, la poésie chypriote, du boulou, de l'hindi et du serbe. Bon, je peux continuer comme ça. Dans toutes les heures, vous avez ça. Alors évidemment, ces mini-cours durent environ 40 minutes. Et puis les 20 minutes restantes, pour boucler l'heure, eh bien, il y a un podium sur lequel il y a des animations. Des animations, donc danse orientale, musique palestinienne, danse vietnamienne, danse du Rajasthan, démonstration tango, rumba congolaise, jambasse. Donc voilà, les 20 minutes s'enchaînent comme ça. Et entre-temps, ceux qui arrivent, eh bien, ils arrivent, ils sont dans la salle polyvalente où il y a les 40-50 associations. Et donc ils font un tour. Ils découvrent, ils discutent. Ils peuvent aussi se restaurer puisque nous avons la possibilité, quelques associations, ils font de la cuisine. Tout ça, mis à part les 4 ou 5 euros qu'on paye pour la dégustation d'un plat, tout ça, c'est gratuit, gratuitement. Donc voilà, les gens viennent. Aussi bien ceux qui interviennent, ce sont des bénévoles, et ceux qui viennent visiter, eh bien, ne payent rien. Alors, pour voir une idée un petit peu ce qu'on fait, eh bien, on a un petit film qui permet de voir un peu ce que c'est que le Festival des Langues.
votre attention, s'il vous plaît. Nous vous informons qu'à partir de 16h, aura lieu le cours de portugais en salle 104, le cours de japonais en salle 107, le cours de néerlandais en salle 112, le cours de suédois en salle 116, le cours d'afar en salle 117 et le cours d'arabe en salle 119. Merci.
Ça fait presque 15 ans qu'on fait les cours d'arabe ici au Festival de Londres.
Tout à l'heure, j'ai donné un cours de mongol. Mes élèves étaient très sages et ils ont posé plein de questions.
Depuis hier, je présente essentiellement deux langues, il y a l'afar et le somali.
Le Festival de l'Arabe, c'est une manifestation qui a lieu tous les ans, au mois de novembre, au Hall des Tours. C'est une grande manifestation linguistique et culturelle qui permet aux visiteurs, en 40 minutes, de découvrir une langue avec ses sonorités, avec ses spécificités.
Bon, bon, c'est les liens. C'est au fond, hein, c'est au fond. En haut du nez, au fond. Bon, bon.
On a l'opportunité ici d'entendre des langues aux sonorités différentes, avec des écritures différentes, avec des origines extrêmement lointaines.
80 langues sont présentées au Festival des langues, environ 60 langues et une vingtaine des moyens de communication comme les morses, comme les brailles, sans oublier toutes les formes de calligraphie qu'on peut avoir, que ce soit latine, que ce soit japonaise, arabe.
Hier, j'ai participé à un cours d'amharique. J'ai participé également à un cours d'hébreu. Et puis aujourd'hui, j'espère participer à un cours d'arabe ou de néerlandais.
Alors, mongol, finnois et suédois. Attends, je vais essayer de compter en suédois. Attends. Et, två, tre, fyra, fem, sex, sju,
åtta, nio. Nous vous informons que le cours de breton se tiendra en salle 104. Le cours d'allemand se tiendra en salle 107, le cours d'ouzbek en salle 112, le cours de rwandais en salle 116, le cours d'amharique en salle 117, le cours de polonais en salle 118 et le cours d'hébreu en salle 119. Merci.
C'est une occasion de s'ouvrir, bien sûr, sur le monde. C'est un espace multiculturel, linguistique, qui permet aux jeunes de se rencontrer, de se connaître et faire davantage de choses ensemble.
J'ai donné un peu de conférence sur l'histoire, la culture.
Tout à l'heure, à 16h, je vais animer une conférence sur le thé.
Alors, je suis là pour faire découvrir la cuisine juive.
La calligraphie, ça fait seulement 3 ans. Je viens faire la calligraphie. Cassandra. Alors.
L'association LinguaFest évidemment organise le Festival des langues, bien sûr, qui est l'activité principale. Mais en même temps, tous les lundis, on organise le Café des langues. Et nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale qui permet aux élèves de venir au Festival des langues. Un partenariat avec le service éducation de la ville qui nous permet d'aller dans les écoles tout le long de l'année. Et puis, une nouvelle activité qui est mise en place par l'association, qui s'appelle Tandem, et qui permet, pour simplifier, à deux personnes d'apprendre l'un la langue de l'autre.
L'Erneio, c'est l'endroit où l'on apprend. C'est donc une école.
Et vendredi après-midi, nous avions l'honneur et le plaisir d'accueillir les enfants des écoles en partenariat avec l'Éducation nationale. Et donc, nous avons reçu environ 300 élèves. Et donc, ils ont eu l'occasion de découvrir deux mini-cours de langue et assister à un mini-spectacle. Notre objectif à nous, c'est à travers la découverte des langues, faire découvrir les cultures et faire en sorte que les gens voient ce qui les rapproche et non pas ce qui les sépare.
Thank you.
Merci.
Des questions, des remarques ?
Bonjour, donc Nadia Bigre, j'habite Poitiers et je voudrais vous remercier, c'est des mots qui me viennent à l'esprit hein, dans le contexte actuel, je voudrais vous remercier pour ce que vous faites parce que je crois que du coup ça devrait être une initiative qui devrait être dans toutes les villes de France et tous les villages. Et donc la question que je voulais vous poser c'est combien de temps vous avez mis pour monter ce projet, vraiment pour qu'il prenne vie. Vous avez été sollicité pour monter ce même festival dans d'autres communes ou est-ce que vous pourriez faire des démarches pour rencontrer des communes et dire voilà ce qu'on fait et est-ce que ça vous intéresserait?
Écoutez, d'abord c'est la 20e année hein, que cette édition existe, ce que vous avez vu ça fait, donc c'est un travail de 20 ans. Au début il y avait 20 associations, je crois, et puis une trentaine de langues. Et là, aujourd'hui, on a une capacité de 70 langues à peu près, une dizaine de moyens de communication à présenter, et puis on a une soixantaine d'associations. Alors évidemment, les réunions préparatoires commencent au mois de février et se terminent au mois d'octobre, où on envoie donc à la presse le contenu du programme, hein, donc qui sort sur un livret comme ça, plus sur le site internet. Alors, pour répondre à votre question de façon concrète, eh bien nous, on appelle l'association Lingua-Fest 37, et notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les passionnés des langues comme nous eh bien, puissent justement utiliser nos compétences gracieusement. Hein, voilà, on n'a pas, il n'y a pas ni brevet ni retenu là-dessus. Hein, l'idée, c'est de... Voilà. Si effectivement des associations, des communes, des services culturels ou autres, parce que nous on travaille beaucoup avec les services des relations internationales de la ville des Tours, hein, et c'est vrai qu'on a un soutien sans faille, la commune, les maires a changé, on n'a aucun problème, enfin bon, on est apolitique, on réunit sous nos toits les Palestiniens et les juifs, enfin bon, on n'a aucun problème des relationnels. Enfin bon, il y a toujours parfois des petites tensions, mais ça n'a jamais débordé. Voilà, il y a les Grecs et les Turcs, les Chypriotes, enfin bon, récemment, donc les Russes et les Ukrainiens. Aucun problème, voilà, parce que les gens viennent, ils respectent un petit peu la seule contrainte que je leur impose, moi et toute l'équipe organisatrice, c'est les questions politiques, syndicales, religieuses sont très intéressantes. Mais ce n'est pas les lieux. Voilà, donc faites un débat ailleurs. Donc à partir du moment où vous acceptez cette condition-là, les gens sont les bienvenus. Et donc, autour de ça, ça fait 20 ans donc, que ça dure notre affaire et on a un soutien sans faille des institutionnels. Et on est prêt, bien sûr, à donner notre recette, entre guillemets, à tous ceux qui sont demandeurs bénévolement. Il suffit que les gens se déplacent. Si on est quand même des gens actifs, moi, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis enseignant de métier, je travaille. Voilà, comme la moitié des intervenants, des membres du bureau, on a quelques retraités heureusement, mais voilà, donc on est prêt bien sûr hein, à aider qui ce soit pour mettre en place un tel projet.
Je voulais je suis Tatiana, je suis étudiante à Tours en fait, et le sujet de enfin, la linguistique qui était abordée avant, ça m'intéresse beaucoup au niveau de la cuisine, le lexique en fait de la cuisine française qui pénètre dans des langues différentes. Et moi, j'ai observé que ça se fait pas d'un pays à l'autre systématiquement, qu'on garde par exemple la sonorité ou bien on change complètement le sens des mots. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a des langues qui sont plus ou moins proches, comme le russe, il a eu beaucoup de contact avec le français, donc on emprunte à tout prix, en fait, pour favoriser, en fait, pour donner plus de luxe, en fait, oui, c'est plus de luxe à la cuisine russe. Et c'est pas la même signification, c'est tout à fait exact. Et par contre, ça ne se fait pas dans d'autres pays, on ne garde pas la même prononciation, par exemple, on adapte à la langue, parce que la prononciation du français, pour d'autres pays, ça peut paraître un peu bizarre, ou un peu peu habituel, ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que ça a du poids, en fait.
Je crois que, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, l'Allemagne, ils ont procédé à une grande réforme de l'orthographe. Et je crois qu'une des choses, c'était notamment parce que tout un tas de mots d'origine française étaient finalement assez biscornus en allemand et qu'il a fallu les simplifier, les germaniser, j'ai envie de dire. Donc là, je parle d'une réforme qui doit dater du début des années 90. Donc on est un peu dans ce cas de figure, où en fait les mots posaient problème, ou en tout cas l'orthographe, et que dans une volonté de simplification, on a finalement transformé, germanisé des mots. Donc là, on est un peu dans ce cas de figure où des mots posaient difficulté, d'une certaine façon, ne serait-ce que pour les écrire. Je pense que, je ne sais pas s'il y a toujours une vraie logique, je veux dire, par exemple, en italien, on pourrait estimer que c'est... le mot restaurant est un mot assez, enfin, que de langue latine, assez proche a priori, et puis le mot a été vraiment très italianisé, enfin ristorante, alors qu'on va avoir en allemand ou en russe, le mot a été gardé quasiment tel quel, l'orthographe a dû être un peu modifiée, mais donc je ne sais pas toujours si, quels sont les cheminements, l'appropriation, c'est des jeux assez amusants, où en fait on voit comment ça peut être déformé, même des fois à assez court terme, tous ces termes. Et c'est évidemment de toute façon une certaine forme d'appropriation, même des plats eux-mêmes. Genre, la première appropriation, c'est évidemment le passage dans la langue et la déformation. Et la seconde, finalement, c'est quand le mot perd quasiment tout lien avec la recette d'origine, où là, on est vraiment dans l'appropriation totale. D'ailleurs, je me posais la question, et je demandais justement à une amie russe, elle me disait que selon elle, vous me confirmez, vous infirmez ça, elle n'était pas sûre que beaucoup de gens aient en tête que jardinière soit... julienne, pardon, soit un mot d'origine française. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus. Elle me disait qu'à son avis, les Russes n'en étaient pas spécialement conscients, d'ailleurs, que julienne était un mot français d'origine. Si ? Parce qu'on a vu quelquefois, après l'appropriation, c'est ça aussi, d'un mot. C'est complètement oublier l'origine. Et je pense que c'est un phénomène assez classique et quelquefois plus rapide qu'on peut l'imaginer. Quoi.
La plupart des mots, oui, tout à fait, on se rend pas compte, en fait, de l'origine du mot, que c'est du français, par exemple.
Voilà. Complète, exactement, oui.
Rentrer dans le vocabulaire.
Pour être juste un peu moins franco-centré, est-il vrai que choucroute est une mauvaise traduction de sauerkraut?
Je ne sais pas si c'est une mauvaise traduction, je pense qu'on est aussi dans la francisation. Vous savez, quand on lisait, mais c'est vrai que autant maintenant, d'abord il y a des langues qui fonctionnent, je pense, plus comme ça. Par exemple, le mot football, en français on va garder football, d'autres langues vont vraiment l'espagnoliser, le lusitanoniser, j'aimerais dire, où en fait on reprend le mot et à partir de sonorités on le transforme. Le français était comme ça, fut un temps, je travaillais sur la langue début du XVIIe siècle, on francisait même les noms, évidemment. Mazarin, c'est Mazzarini. Buckingham, quand on lit des textes français début XVIIe siècle, Buckingham, ils écrivent Bouquincan. Par là, on écrivait comme on prononçait et on s'appropriait les mots de cette façon-là. Maintenant, on a des scrupules à faire ça, évidemment, mais ce serait tout à fait possible. J'ai envie de dire choucroute, c'est ça aussi. C'est une francisation. C'est pas une mauvaise traduction, c'est une appropriation. Oui, mais finalement, c'est une francisation. On n'est pas dans la traduction, on ne cherche pas à traduire, on s'approprie.
D'autres questions, d'autres réactions?
Juste un petit commentaire. Mais c'est la démarche que vous avez, il y a quand même un fil conducteur général, de partir de petites choses et pour quand même poser des problèmes importants. On parle de mondialisation, c'est quand même... On sent l'internationalisation derrière, ce que chacun fait à sa manière, en prenant un tout petit bout du système. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai lu il y a pas mal d'années un bouquin qui s'appelle Minimalia Moralia d'Adorno, qui théorise un peu ce qu'on est tous en train de faire. C'est-à-dire, il prend l'exemple notamment de Proust et de la recherche du temps perdu. Tout le monde se fout de cette classe de nobles décadents qui allaient disparaître après la guerre de 14, avec tout ce qui se passe. Et en même temps, il fait un livre exceptionnel, un livre majeur. Donc, c'est tout à fait ça. À partir de petites choses qui peuvent apparaître très secondaires, peu importe, chacun mettra ce qu'il a envie de mettre, on peut progresser jusqu'à des niveaux de conscience très élevés, à tout point de vue. Voilà. Donc, merci à Jackie d'avoir eu cette idée.
Michael.
Par rapport à ce que tu as dit là, il y a un très bel exemple en Afrique du Sud, dans une localité qui s'appelle Frankchouk, qui veut dire en africaneur le coin des Français. En fait, on a rebâti toute une histoire en disant que cette ville a été fondée par des Français, ce qui est totalement erroné. Et en fait, on a joué la carte de la French Touch, justement, y compris sur le plan de la restauration, parce que en gros, on a francisé le territoire pour dire venez chez nous, c'est l'art à la française, la gastronomie, les chambres. Alors, on vend pas des romantic rooms, on vend des romantic chambres. Voilà tout le vocabulaire de la municipalité et joue cette carte-là. Et ça marche à fond les manettes, au point qu'on a même créé un Bastille Festival. Voilà. Et on joue à la pétanque, etc. Donc on est vraiment là. En gros, venez dans notre coin Petite France là, pour vivre comme vivent les Français.
Bien. On a deux témoins donc, que je voudrais faire. Merci à vous deux. On n'a pas insisté sur le fait aussi que vous avez des journées tous les ans à Tours. Hein.
Ah, on a plein de choses. Voilà. Déjà, j'ai trop parlé.
Donc, je ne sais pas, on a... Un... Oui, ben venez ici, toutes les deux, venez. Je vais vous laisser le soin de vous présenter l'une et l'autre, et puis de réagir, et puis de donner des informations, puisqu'on est là pour ça.
Si je commence...
On commence par la
je voulais juste embringuer sur les petits, le cheminement étonnant, juste un témoignage sur la gastronomie. J'ai été pendant 4 ans conseillère scientifique à l'ambassade de France à Washington. Donc j'étais chargée de représenter la recherche, la science dure, et évidemment, les Américains étaient plus intéressés par la gastronomie française. Donc, c'était parfois un peu inconfortable. Mais en fait, on est arrivé très bien à jouer avec ça, comme vous le dites. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voulait faire un séminaire scientifique sur des choses, la nanotechnologie, etc., il suffisait d'inviter à l'ambassade de France. Ils arrivaient tout de suite parce qu'on mangeait à l'ambassade de France. Et ils adoraient venir manger à l'ambassade de France. Et là où Obama était hier, d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est vrai que le cheminement, il faut simplement en tirer parti. Hein, l'utiliser, très bien, la France est attractive par sa gastronomie, on va leur montrer qu'on fait aussi des sciences en France. Voilà. Donc je connais bien ce contexte et c'est tout à fait ce que vous décriviez. Voilà. Alors là, j'ai pris la parole parce que je voulais faire la transition, mais si on veut faire parler des angles anciennes avant, allez-y.
Donc je prends mon microphone, comme ça je me raccroche, n'est-ce pas, à la francophonie. Puisque vous retrouvez le mot phone et le microphone, n'est-ce pas, micro, c'est une petite voix par rapport au mégaphone. Hein, si je vous parlais dans un mégaphone, vous ne me verriez pas, je parlerai, n'est-ce pas, dans un grand cornet. Voilà. Alors, donc, je vais peut-être présenter l'association qui est la CNARELA, c'est la coordination nationale, il faut se cramponner, hein, coordination nationale des associations régionales des enseignants de langues anciennes. Alors, la CNARELA donc coordonne 28 associations qui sont réparties dans les différentes académies de France. Jusqu'ici, peut-être que les académies vont être révisées, n'est-ce pas ? Mais pour le moment, donc, il y a je ne vais pas dire chaque académie, mais du moins dans un grand nombre d'académies, il y a une association d'enseignants de langues anciennes. Quel est le rôle de ces associations? Elle est donc régionalement de défendre et de promouvoir les langues anciennes, donc avec les moyens du bord évidemment. Et le plus souvent, donc, ces associations réunissent des professeurs de lycée, de collège et d'université, ce qui est, si vous voulez, un point positif pour essayer donc de se coordonner. Le but, donc, évidemment, c'est d'enseigner le latin et le grec, de rénover également les enseignements. Et actuellement, je en discutais justement à midi, on est tout à fait axé sur l'enseignement audio-oral. C'est une méthode qui avait été notamment inventée par un professeur de Pau, je suis de l'Académie de Bordeaux, hein, professeur de Pau, donc Claude Fievé, et qui a été donc rénovée ces dernières années et dispensée. Donc effectivement, on apprend le latin en parlant latin, hein, si bien que, en quelque sorte, on institue on introduit de nouveau une pratique qui était horrible pour certains, à savoir le thème. Hein. Donc c'est une manière donc de peut-être revenir donc au latin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 500 000 élèves étudient le latin et le grec, sans parler de l'université, hein, étudie le latin et le grec actuellement en France. Hein, on dit donc, je rencontre des gens, on me dit « Ah, mon Dieu, c'est perdu », etc. Bon, il ne faut pas quand même exagérer ce qu'il faut. Il faut donc se maintenir. L'objectif, donc, c'est effectivement que le plus grand nombre d'élèves puissent étudier le latin et le grec. Pourquoi ? Hein ? C'est pas simplement pour qu'ils deviennent professeurs, ils ne deviendront pas un professeur de lettres classiques, mais c'est peut-être pour les aider à maîtriser, un, le français, hein, à s'approcher de plus en plus de l'exactitude de la langue, et peut-être également les autres langues, puisque le latin et le grec, donc, sont... des langues indo-européennes qui, en quelque sorte, sont à l'origine de nos langues vivantes. Je vous donne rapidement un exemple. Étant bordelaise, donc je prends souvent l'exemple du vin, hein, le vin. Eh bien, le vin, cela se dit en grec, oinos, ce qui a donné œnologie. Hein. Or, il y avait, chez Homère, vous aviez une lettre qui s'appelait le digamma et qui se prononçait « we ». Donc, en fait, le vin en grec, cela se prononçait initialement oinos. Oinos, winum en latin, le vin en français, on ne prononce plus we, wein en allemand, wine en anglais. Bon, vino et bino, latin, espagnol. Or, le V et le B sont des lettres, sont de labiales, des labiovélaires, qui sont donc en quelque sorte la même lettre. Basile, qui vient du roi, c'est la même chose que Vassili. Alors, si vous voulez, bon, je pourrais ainsi continuer, vous donner des exemples, mais si vous voulez, c'est une manière de dominer donc un grand nombre de langues. Alors, les activités des associations, c'est de faire donc des concours donc de latin ou de grec, de différentes manières. Genre QCM, voyez-vous, ou alors des petites versions, ou alors on donne un thème et puis finalement on donne donc des exercices sur ce thème. Donc chaque association organise donc un concours. L'ACNARELA est également en lien avec Euroclassica, qui est une association de professeurs donc de langues anciennes au niveau européen. Et je suis chargée notamment de récolter les résultats d'un concours que nous lançons chaque année qui s'appelle le Vestibulum. Vestibulum, vestibule. Hein. C'est-à-dire, c'est la première partie, donc, lorsque l'on a fait 2 ans de latin ou 2 ans de grec, on passe ce concours européen qui ressemble, n'est-ce pas, aux autres concours européens de langue. Et ensuite, eh bien, on passera à la Yanoua. La Yanoua, c'est la porte, donc. Et ensuite, eh bien, on ira au troisième niveau. Voilà, si vous voulez, donc l'objet de l'ACNARELA. Vous pouvez peut-être contacter donc une ARELA s'il y en a une dans votre académie. Et également, je vous signale qu'il y a un certain nombre de festivals qui sont importants, notamment le festival d'Arles qui s'appelle ARELAT. Nous organisons tous les ans des journées d'octobre qui se font dans différentes académies. Donc, l'an dernier, cela avait lieu à Strasbourg et cela était axé sur l'humanisme rhénan. L'an prochain, eh bien, nous serons à Bordeaux avec permanence donc, de l'Antiquité au point de vue artistique, au point de vue architectural. Hein, si on se promène donc, dans une ville donc, du XVIIIe siècle ou du XVIe siècle, eh bien, on voit que vous avez énormément de reprises donc, de l'art ionique dorique corinthien, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que nos langues anciennes sont très liées, effectivement, à la francophonie et à un français donc maîtrisé. Voilà.
Merci beaucoup.
Bien, je vais en brancher sur cette association pour en présenter une autre. Alors, ça s'appelle l'Agence universitaire de la francophonie. En fait, c'est une association de membres, mais qui comporte 800 membres. Les membres sont des universités ou des instituts. Son siège est en fait à Montréal, donc on est au Québec, mais le rectorat, c'est-à-dire le secrétariat général, est à Paris. Alors c'est une agence qui regroupe, je crois qu'actuellement on a à peu près 100 pays qui sont membres, plus que pour l'OIF, hein, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est beaucoup plus politique, et nous sommes une des agences, enfin oui, je ne sais plus si c'est le mot agence, de l'OIF, on est le bras universitaire de l'OIF, voilà, mais avec plus d'adhérents à l'AJUF, de pays adhérents qu'à l'OIF. Parce que c'est moins, enfin, on peut avoir des membres adhérents sans que le, enfin, c'est moins officiel. Et nous avons 10 bureaux en région, hein, en dehors de Montréal et Paris. Nous avons 10 bureaux en région. Alors, je salue l'université de Poitiers qui nous envoie, enfin, chaque bureau régional est dirigé par un directeur qui est en fait, en général, un universitaire détaché de son établissement. Donc actuellement, nous en avons 3 qui viennent de l'université de Poitiers. Madame Salwa Nakouzi, qui était la vice-présidente de relations internationales de l'université de Poitiers et qui est partie à Beyrouth pour 4 ans et qui est maintenant à Bruxelles, au bureau Europe de l'Ouest. Nous avons un mathématicien de Poitiers, Hervé Sabourin, qui est actuellement à Beyrouth, donc qui a suivi Salwa. Et puis un juriste de l'Université de Poitiers, Alain Ondua, qui est au bureau Europe centrale et Grands Lacs. Donc, vous voyez, c'est des grands territoires et ces directeurs de bureau jouent un rôle extrêmement important, d'autant plus que l'agence a eu une tendance récente de faire travailler beaucoup les bureaux et que les initiatives, les projets soient lancés par les bureaux et non pas par les sièges au Québec ou en France. Voilà. Donc, que fait-on ? Alors, on est justement, enfin, bon, c'est évidemment francophonie, mais on va au-delà. Et d'ailleurs, tout ce qu'on s'est dit, en partie de votre festival, monsieur, résonne bien parce qu'on a actuellement, on s'ouvre vraiment sur le multilinguisme. Hein. On essaie de pas, enfin, comme je dis souvent, de pas faire que le français soit une barrière, mais au contraire une porte ouverte, d'accord, et pas une porte fermée. Et en particulier, on en parlait avec c'est Tatiana, votre nom, hein, tout à l'heure. Elle me dit, mais bon, je vois qu'il y a des gens qui peuvent, en France, qui rédigent leur thèse en anglais ou leur thèse de master ou leur thèse de doctorat. Eh bien, oui, on n'est pas contre, quoi. Hein. Voilà. Alors, évidemment, ça dépend des domaines. Hein. En littérature française, non. Mais en physique, en mathématiques, et surtout en physique, d'ailleurs, que ça se fait physique, chimie, éventuellement en biologie, pourquoi pas, hein, on se dit qu'il vaut mieux avoir un jeune, accueillir un jeune non francophone qui peu à peu va acquérir sinon une langue parfaite qui lui permette d'écrire sa thèse en français, mais au moins une culture, se faire des amis, etc. en France, que lui fermer la porte parce qu'il ne parle pas assez bien le français. Hein. Donc on a plutôt l'approche et la francophonie, alors nous avons beaucoup de boursiers, hein, nous accueillons, il y a un gros volet de bourses chaque année pour faire venir de jeunes qui sont en général des francophones, mais aurait-on un jeune non francophone, enfin ça dépend un peu des pays, parce qu'on a aussi des bureaux ouverts par exemple au Brésil, en Russie, en Chine, hein, et là on ne mettra pas le français comme barrière. De plus en plus, on essaie d'être multilinguiste et je parlerai d'ailleurs au recteur de ce festival qui me paraissait vraiment passionnant. Voilà. Bien. Alors, pourquoi donc, je pense que je suis ici essentiellement grâce à Salwa, donc, qui était une vice-présidente de relations internationales, comme moi je l'étais pour mon université à Paris-Sud, donc on se connaissait très bien, mais aussi parce que cette année est l'année un peu de la francophonie créative ou chose comme ça, voilà, c'est cela. Et une des manifestations a été, par exemple, un fait. Alors, ça, je lis le nom parce que, comme je n'y étais pas, je ne le sais pas par cœur. Le Forum francophone de l'innovation, hein, qui a eu lieu à Namur, en Belgique, en septembre. Et ça, c'était vraiment, enfin, si vous voulez, justement, innovation, francophonie. Je dirais pas que c'est contradictoire, mais dans une certaine tradition, hein, c'est pas exactement sur l'innovation que la France est attendue. Et en fait, elle y est. Voilà. Hein, donc c'est tout ça qu'on essaie, quand je dis la France, c'est de la francophonie, je voulais dire. Hein. On essaie de plus en plus de montrer que justement la francophonie n'est pas voilà, cantonnée à certaines matières, domaines traditionnels, mais s'ouvre à tout. Et c'est très amusant. Enfin, ils ont terminé ce séminaire par un appel de Namur. Alors, c'est très solennel. Hein. Je vais vous en lire le résumé, bien sûr. Je ne vous lis pas tout l'appel parce qu'il y a 10 points dans l'appel, hein. 10 recommandations. Mais l'appel de Namur souligne notamment l'importance pour les États et gouvernements ayant le français en partage, hein, c'est comme ça qu'on appelle, qu'on parle, de garantir aux acteurs francophones la mise en place de conditions favorisant l'innovation ouverte et ascendante. Hein. C'est là où on est, les territoires sont concernés, et d'accroître les investissements dans la recherche et l'innovation et la nécessité pour les organisations internationales, régionales, nationales et locales de veiller à placer l'innovation au cœur de leurs actions en recherchant notamment des synergies avec les acteurs du réseau FINOV. Alors FINOV, c'est F-I-2-N-O-V, pardon, et c'est le réseau de l'OIF pour l'innovation, et ça a été créé, là aussi c'est un peu nouveau hein, pour l'Organisation internationale de la francophonie, l'innovation devient un projet spécial mis en avant avec un réseau qui date de juillet 2013, hein, donc ça n'est pas vieux, hein, vous voyez, on est dans un mouvement, voilà. Donc bon, je ne vais pas vous dire grand chose d'autre, par contre on peut discuter un peu, puis je vois que M. Moreau est là, je pense qu'on ne va pas tarder à conclure, voilà, l'AUF est d'une part très reconnaissante à l'Université de Poitiers pour son accent et sa générosité, puisque détacher un professeur, ce n'est pas anodin. Et par ailleurs, nous sommes ouverts à tout ce que j'entends là autour, enfin tout ce que j'ai entendu cet après-midi qui m'a beaucoup intéressée. Et la francophonie a, je pense, plein de nouveaux visages, visages émergents qu'il faut aider à émerger. Alors juste pour, je terminerai sur l'aspect régional et local. Une de nos forces actuellement, c'est d'avoir été très pionniers sur l'éducation numérique. Hein, cela fait à peu près 20 ans, enfin 10 ans de manière opérationnelle qu'on soutient l'enseignement en ligne, hein, dans sa version vraiment diplômante qui était les formations ouvertes à distance, et maintenant dans sa version récente, sont plus des cours, hein, les MOOC, hein, c'est-à-dire les cours ouverts, c'est juste des cours qui peuvent se terminer par une certification qu'on essaie de donner. Et alors on essaie de dire CLOM, hein, je ne vous cache pas, cours en ligne ouvert et massif au lieu de MOOC, mais bon, ce n'est pas une cause perdue, mais c'est dur. Hein. Bon, donc, quoi qu'il en soit, on essaie de promouvoir cela, et un outil, alors c'est là où je boucle sur la région et le local, un de nos outils qui fait que le ministère de l'enseignement supérieur français a fait une convention avec nous, l'école polytechnique fédérale de Lausanne aussi, qui est un des pionniers des MOOC, hein, et en particulier en Afrique, etc., c'est que nous avons ouvert depuis 20, ça a commencé il y a 20 ans, des campus numériques francophones en région. Hein. Donc si nous n'avons que 10 bureaux dans le monde entier, hein, beaucoup en Afrique, bien sûr, mais dans d'autres, Vietnam, etc., nous avons une quarantaine de campus numériques francophones qui sont des lieux, hein, des lieux où on peut venir se regrouper et en particulier suivre les formations à distance avec la meilleure connexion du pays, qui ne veut pas dire que c'est parfait, mais dans un pays en général, par exemple, je pense en, on en a en Centrafrique, on en a au Mali, on en a, vous voyez, dans tous ces pays, Côte d'Ivoire beaucoup, c'est l'endroit où on peut se regrouper, venir parler français, venir, vous voyez, c'est un lieu, quoi, voilà, et en particulier se connecter et suivre ses enseignements à distance. Donc tout ça est lié. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup de vos deux réactions, vos deux témoignages. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, oui, une question?
J'aurais une petite question à propos d'apprentissage du latin sous forme de dialogue, communication, oui. C'est ça? Je sais que le latin, il avait un système bien particulier et qui était différent du système français d'accentuation et oui. De prononciation de R.
Oui.
Moi, ça m'intrigue. Oui. Qu'est-ce que vous appliquez pour apprendre? C'est-à-dire que parce qu'il y a deux versions, on prononce R à la française ou R roulé.
Nous roulons les R, hein. Rossa. Ah, oui, d'accord. Rossa.
Et au niveau de l'accentuation, il y avait un accent musical. Est-ce que vous, de hauteur, ouais. hauteur, est-ce que c'est
possible? L'accent, oui, on essaie. On essaie. Rosa, 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 rosa. Alors, bon, ça, on pense que l'on roulait les airs, enfin, c'est à partir justement des cris d'animaux que l'on... Bon, si vous savez, je crois que peut-être certains ont appris le latin en prononçant les U, U. Nous, nous certains ont d'autres, ensuite, on a appris le latin en prononçant les U, U, à cause du nom du coucou. C'était coucou, et c'était pas cucu. Voilà. Bon, maintenant, c'est aléatoire, hein, bon. On ne va pas revenir déterrer nos Romains, voilà. Pour taverne, hein, j'ai oublié de dire à notre Loïc que ça vient de taberna, en latin, taberna, tabernae, c'était l'endroit où l'on buvait, où l'on allait boire, hein, d'où ça donnait taverne, B et V étant la même lettre. Donc la taverne, vous avez dit que c'était l'endroit où finalement on allait se saouler, c'est possible, hein, mais c'était taberna, tabernae, là où le peuple, hein, allait d'ailleurs boire. Voilà. Ah, tabernaculum, hein, ça. Alors le tabernaculum, c'est la petite, justement, c'est la petite échoppe. Voilà, exactement. Coulous, coulous, n'est-ce pas? C'est le diminutif.
Merci à vous. Et pour terminer, on ne va pas terminer en chanson, même si notre ami québécois nous y incite, il peut peut-être, mais on va terminer en chocolat. Voilà, on n'a pas voulu faire la brioche. Donc je donne la parole à M. Berton, qui est de Châtellerault, chocolatier, pour qu'il nous explique ce qu'il fait avec le chocolat.
Donc là, je remercie tous les intervenants, parce que je me suis retrouvé dans tous les pays où je vais. Donc, comme vous avez été sage, on a décidé de vous arrêter une dégustation. Vous l'avez frôlé juste. Hein. C'était monsieur là, on s'est inconcerté, on a dit bon d'accord, on leur donne. Donc, on va vous présenter l'Oméga Choco. C'est un chocolat qui est fait à base de fèves et non pas de pâte de cacao. On vous distribue un petit dépliant là, comme ceci, qui représente ce que j'ai fait un livre qui s'appelle Le chocolat chirurgien. Avec le professeur Joyeux. Ce livre a demandé le professeur Cabrol parrain de mes études depuis 14 ans. Il m'avait pas recommandé de sortir ce livre il y a 5 ans avec un gros éditeur européen qui est en scientifique, et parce que je ne suis pas médecin, et il m'a dit si vous sortez ce livre, vous aurez de gros problèmes. J'ai attendu 4 ans et à Namur, le professeur Joyeux se présente, parce que j'ai beaucoup de clients en Belgique et en Suisse. Il me dit, monsieur Berton, j'ai toutes les preuves sur vos recherches, je pourrais faire un livre. Et je lui réponds du tac au tac, mais professeur Joyeux, ça fait 4 ans que je vous attends. Et de là, bien, je lui ai confié mes écrits. Et ce livre est à la 4e réédition. Il y aura une nouvelle édition, ça sera avec du chocolat dessus, hein, au mois de, fin janvier, début février. Donc, le cacao, quand je vais le chercher, là, je vous avais aussi. Je prends en Amérique du Sud, donc au Brésil, j'ai un producteur qui a été meilleur cacao du monde. Je rencontre toujours les écoles françaises, partout où je vais, dans l'Amérique du Sud, il y en a beaucoup, en République Dominicaine. Et là, prochainement, on travaille des Haïtiens, on fait une opération d'ailleurs avec eux, ça fait 2 ans, on forme les producteurs sur des types de fermentation. Et j'ai travaillé il y a une trentaine d'années avec une équipe de chercheurs américaines sur les fermentations lactiques, qui était à l'Acto-Lavo, c'est par ma fille et sa fille qu'on s'est connus. Donc vous voyez, le hasard des rencontres valent tous les rendez-vous du monde. Et en fin de compte, à partir de ce chocolat, j'ai vite trouvé qu'il fallait mettre au point les repères du goût pour les enfants, mais pour tous les consommateurs. D'ailleurs, souvent dans certains endroits, comme sur les autoroutes, si je vois des gens manger, je leur dis bonne chance. Pas bon appétit, parce que, en fin de compte, on leur dit de s'arrêter tous les 2 heures pour reprendre la route, parce qu'ils vont somnoler. Ben oui, mais quand ils vont manger des produits industriels dont les molécules sont transformées, ben ils vont se mettre à somnoler au moment de la digestion ou avoir des remontées, des ballonnements et somnoler. Ils se demanderont pourquoi. Ça veut dire que le foie et le rein sont en train de faire la poubelle. C'est que les gens ont mangé un produit dont les molécules sont pas reconnues par nos enzymes, notre corps. Voilà. Donc ça, voilà, c'est, vous pourrez voir ça, c'est pas le sujet. Donc, y a une chose que j'ai remarquée, c'est que quand je fais des conférences à l'étranger, je ne maîtrise pas assez les langues étrangères, donc je m'exprime en français. Et j'adore ça parce que je me suis aperçu que, aussi bien en Espagne, à Irún, avec des jeunes, la première fois c'était un jeune il y a 4 ans, un jeune interprète qui revenait du Québec, un Espagnol qui parlait français avec l'accent québécois. C'était assez marrant. Et il parlait donc espagnol et basque. Parce que là-bas, si vous arrivez qu'en parlant le français, il vaut mieux rester chez vous. Hein. Donc, et je me suis aperçu que la première année, il avait pigé mon chocolat, qui est quand même scientifique, en un quart de tour. Alors que si j'explique à un Français dans mon entreprise, un jeune commercial ou autre, c'est très difficile à rentrer, c'est trop pointu. Alors que l'interprète, lui, le comprend très rapidement. L'année suivante, je suis retombé sur d'autres jeunes. Pareil, dès le lendemain, il m'a expliqué ça. Et quand je vais aux États-Unis, c'est pareil, quand j'ai un interprète. D'ailleurs, les Américains disent que les Français vivent pour manger et l'Américain mange pour survivre. Voilà ce que me disent mes amis américains. Et en fin de compte, eh bien, je me suis aperçu que l'interprète a des cases qui va le mettre en avant, qu'il va sortir des cases parce qu'il est obligé d'écouter et d'interpréter après. Donc, il va beaucoup mieux comprendre l'essentiel. Et je vous assure, ça m'a posé problème longtemps parce que j'ai mis 2 ans pour comprendre comment c'est-il qu'un interprète comprend aussitôt mon chocolat puisse en reparler le lendemain tout seul, alors que sur les salons, quand je forme des commerciaux, c'est très très dur. Maintenant, c'est là que j'ai compris que l'interprète fait travailler des cases que les autres ne font pas travailler. Donc j'ai aussi fait un chocolat au Vietnam, du côté de Ho Chi Minh Ville, à Ben Tri. Alors là, je n'ai pas continué avec eux, parce qu'ils ne sont pas dans le bio, je travaille en bio. Et voilà un petit peu, je fais les repères de goût, et j'interviens dans les collèges aussi, mais aussi les petites classes, et souvent je me trouve maintenant dans des classes où il y a 5, 6, 7 pays différents représentés dans la classe. Et très vite, je leur demande, vous êtes d'où ? Ils ont presque des fois un peu honte de dire d'où ils viennent. Et moi, je leur dis, je viens du Poitou, avec mes grands sabots. Pour tout le monde les mettre à l'aise. Ensuite, je leur demande qu'est-ce qu'ils mangent chez eux, parce qu'on est souvent c'est sur les repères du goût. Et c'est comme ça que ces enfants, on leur explique que n'oubliez jamais vos origines, il faut leur donner des repères, et c'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas aller de l'avant, je me suis aperçu, sans nos origines, sans notre histoire. Ceux qui ont oublié leur histoire, et je vois beaucoup de politiques qui ne connaissent pas du tout l'histoire, ça m'inquiète fortement pour l'avenir. Eh bien, l'histoire, c'est un éternel recommencement. On a besoin de nos origines, sinon on n'avancera pas. Alors, le chocolat que je vais vous présenter, vous allez le prendre comme ceci, et je vais vous demander d'être patient, parce qu'on va le manger tous en même temps pour avoir les mêmes sensations. Sinon, ça n'a pas marché. Et vous le sentirez. Donc, je vais vous faire passer. Tenez, si vous voulez. Alors, vous le sentirez d'abord. Alors, c'est un chocolat. La composition de ce chocolat, c'est fèves de cacao, pâte de cacao. Alors, s'il y en a qui veulent, j'ai aussi des programmes du festival 2014, mais qui a pas mal de choses qui pourront vous intéresser. Ce chocolat est fait à base, la composition, c'est de la fève, et non pas de la pâte de cacao, comme la majorité des chocolats bio ou non bio. Fermentation spécifique, comme le raisin. Je me suis beaucoup inspiré de la fermentation du raisin. Donc, je travaille avec des viticulteurs, des œnologues. Et on développe avec cette fermentation des molécules aromatiques, à peu près 800 précurseurs aromatiques, comme dans le raisin pour le vin. Donc il n'y a jamais d'arôme dans mes chocolats. Et vous avez aussi la sérotonine qui est développée au moment de la fermentation. Donc on a des résultats sur les insomniaques, les fumeurs, sur plein de choses, les dépressifs avec ce chocolat, puisqu'on a à peu près 8000 consommateurs qui ont donc renvoyé leur compte rendu sur les effets secondaires qu'ils ont eus avec ce chocolat, et que des bons effets. J'ai eu la médaille d'or à Genève en 2008, parrainée par Science et Vie, c'est un salon international de la recherche innovation, parce que j'ai trouvé le moyen, et je suis le seul aujourd'hui dans le monde, à protéger l'oméga 3 de l'oxydation, que l'oméga 3 s'oxyde très très vite, et on a oublié de vous le dire dans la publicité. Et le rapport en oméga 6 est toujours plus élevé qu'en oméga 3, ici c'est le contraire. Donc si vous mangez chocolat, vous êtes en bonne santé, vous allez vous protéger le cerveau, le cœur et les inflammations, parce que ce ne sont pas des oméga 3 morts. Quand vous mangez une huile de poisson, on vous dit toujours de quoi faire, de l'avaler, il faut la croquer. Et le chocolat, on vous dit à croquer. Tout le monde est servi ? Non, j'attends encore un peu. Et donc quand vous allez vous servir votre palais, et vous allez voir, et c'est pour ça que quand on vous dit toujours le contraire de ce qu'il faut faire pour manger, on veut que les gens bouffent, on ne veut plus qu'ils mangent. Parce qu'en bouffant, la personne va bouffer 4 fois plus, dépenser 4 fois plus et enrichir 4 fois plus les multinationales. Donc tout le monde est prêt ? Ça y est, vous l'avez ? Vous le sentez bien ? Regardez la couleur aussi, il n'est pas noir de noir. S'il est noir de noir, c'est un produit chimique qui a été rajouté pour le noircir énormément. Comme le cacao poudre. Cacao poudre est toujours noir pour les consommateurs, alors qu'il doit être clair. Van Houten était un pharmacien. J'explique dans mon livre, j'explique aussi pas mal de choses sur les colonies françaises et tout. Donc vous allez le prendre, vous le mettez ici, sur le côté, entre la joue et la gencive. Alors on a découvert ça, c'est avec le professeur Cabrol, il y a une dizaine d'années, qui me dit « Votre chocolat, c'est un chocolat intelligent. » Ah bon ? Je dis « Pourquoi vous me dites ça ?» Il me dit « Vous verrez, quand vous laissez fondre ici, ça chauffe ici. » Et on parlait d'un chocolat intelligent qui nous boostait intellectuellement et physiquement. On le voit aussi bien sur les sportifs de haut niveau, Chavanel qui le prend depuis 4 ans et demi, champion de France, on a les marathoniens, mais le pire c'est les grands-mères qui n'ont plus de douleurs musculaires. Et je leur demande ce qu'elles mangent. En général, elles disent maintenant je suis âgée, je mange moins, donc, et je fais attention aux calories. Bah oui, la publicité mensongère. Et il y a une étude américaine qui disait il y a 15-20 ans qu'on nous a trahis sur les calories. Effectivement, elle se dénutrit en bonnes calories et ce chocolat a le double de protéines qu'un chocolat bio normal. Donc on renourrit le muscle. Quand la personne fait de la marche, le muscle brûle les bonnes calories. Donc pas de douleur musculaire, pas d'inflammation. C'est un anti-inflammatoire. Donc vous voyez, pour l'instant, votre chocolat est toujours là. Il ne bouge pas. Alors le premier qui croque et qui aura mangé, ce n'est pas grave. J'ai trouvé la solution pour les adultes. Les enfants me le gardent dans une classe plus de 10 minutes. Le record est de 22 minutes. Mais ils veulent tous gagner. Ils ne bougent pas, ils ont bras croisés. La première fois, c'était à Saint-Jean-de-Mont. J'ai fait le maire et pharmacien. J'ai fait 8 jours là-bas, une semaine, toutes les classes de la ville. Et la première classe, quand j'ai fait ça, il y a tout un procédé, hein, j'ai pas mal, parce que ça va être trop long. Et je vois les mômes bras croisés et qui ne bougent plus. 10 minutes de silence total. Et regardez au-dessus de moi, je regarde, c'est la pendule. Et bien, en faisant ça, un gamin, au bout de 3 jours, a plus envie de sucrerie. Un fumeur, au bout de 3 jours, a un dégoût de la cigarette. Il faut qu'il prenne 8 demi-carrés par jour. Est-ce que vous commencez à saliver ? Alors pour les adultes, parce que les adultes ont l'habitude de croquer, ils sont formatés par la pub, donc j'ai trouvé l'astuce. Le premier qui aura croqué, il lève le doigt, comme quoi il a perdu. S'il a la carte bancaire, c'est très bien, mais je n'ai pas la machine, je suis désolé, eh bien il paye une tournée générale de chocolat aux autres. Et en général, ça marche, ça les calme de suite. C'est la seule méthode que j'ai trouvée pour les adultes. Donc vous salivez. Et là, vous développez des enzymes. Ici, vous avez le sommet des enzymes que l'homme préhistorique, lui, utilisait. L'homme préhistorique, lui, quand il allait pour manger, il n'avait pas son cabas, il n'avait pas vu la pub à la télé et il n'était pas formaté, il n'achetait pas un prix aussi. Parce que les consommateurs, le consommateur bien paramétré, lui, il achète un prix et une pub. Alors que lui, il fallait qu'il se nourrisse. Donc il prenait un produit, le santé, ce qu'on ne fait plus, et ensuite, eh bien, il le mâchait tout doucement. Et ses enzymes qu'il développait lui disaient c'est bon, pas bon, il recrachait. Eh bien, on peut faire la même chose. On l'a encore en nous, ça. Eh bien, grâce à ça, au fur et à mesure des comptes rendus des consommateurs, j'ai appris plein de choses sur mon chocolat. Et donc, à partir de là, d'où les repères de goût, j'ai mis au point. On va former des formateurs pour mes 60 ans, pour ma retraite, c'est ce que je vais faire. Former des formateurs dans toute la France qui vont former les métiers de bouche, les diététiciens, nutritionnistes et autres, qui vont devenir aussi des intervenants dans les classes, dans toutes les Frances. Je fais déjà des communes dans ma région, mais j'ai refusé plein de communes, parce que tout seul, j'ai pas que ça à faire, mais j'ai des contrats sur 6 mois avec des communes où on intervient toutes les semaines. La première semaine, c'est l'Oméga Choco et d'autres sortes de chocolat. X. Est-ce qu'il y en a où ça a chauffé ici ? Moi, ça vient de me chauffer à l'instant, je viens de capter la sérotonine. Mais ça, j'ai l'habitude. C'est juste un entraînement, comme le sport, c'est pareil. Et chez un alcoolique, par exemple, on lui fait venir son vin qui, le rouge qui tache, et il y a une façon de le prendre, et très vite, il va voir que son vin n'est pas bon. C'est un révélateur. S'il est bon, il est bien meilleur, et vous n'avez plus envie de boire et de reboire. Vous êtes en satiété. D'ailleurs, on avait prévu de le faire, mais il y a eu un... Et en fin de compte, plus vous attendez, plus les arômes montent. Il n'y a pas d'arômes au début qui surgissent, qui viennent vous trahir le palais et les neurones qui fait qu'on bouffe la tablette, comme l'alcoolique boit son litre de rouge. Donc c'est un révélateur. Et la deuxième semaine, quand je fais pour les enfants, bah, je fais les fruits. Par exemple, là, j'étais à Vouneuil, et il y a 3 gamines qui me disent « Ah ben, bah, j'aime pas, j'en veux pas. » C'est pas de problème, je leur fais le coup du dealer. Vous connaissez tous le coup du dealer ? Non ? Pas de dealer dans la salle, ça me rassure. C'est une façon de contrôler aussi. En fin de compte, le coup du dealer, c'est que les 3 gamines, je les laisse tomber. Je m'en occupe plus. Et je prends les poires, c'était poires et pommes, la deuxième semaine. Et j'avais pris des pommes et des poires d'un producteur local. Et j'explique que la poire a été préparée, elle a été mûrie, elle a été sortie du frigo. Et maintenant, vous le sentez. Et je fais passer. Et là, je leur dis, est-ce que ça vous salivez ? Oui. Vous avez l'eau par le nez. Le nez est très important dans la dégustation. C'est l'essentiel, d'ailleurs. Eh bien, je leur fais comprendre comment se servir de tous leurs attributs et de tous leurs sens. Et en fin de compte, je leur dis la première fois, c'est que, est-ce que vous savez ce que c'est un gogo ? Parce que je peux tomber aussi bien dans le rythme scolaire des enfants qui ont 6 ans que des enfants qui ont 11, 12 ans. Et je les prends attention le soir après qu'ils ont fait leur journée. Hein. C'est encore une autre méthode, parce que là, il faut une semi-liberté, et vous ne pouvez pas les tenir tranquilles. Il faut qu'ils se lâchent un peu, et c'est prévu. Et en fin de compte, je leur explique que c'est quelqu'un qui se fait toujours avoir. Et à partir de ce moment-là, il n'y en a aucun qui veut se faire avoir. Donc à chaque fois, dès qu'il y en a un qui sort du rang, toi, tu veux être un gogo. Donc il n'a pas envie d'être gogo. Et en fin de compte, eh bien, ensuite, je leur explique qu'on va prendre la poire, qu'on va la couper, manger un premier morceau tout doucement, la sentir et prendre. Et ensuite, on va voir qu'elle va être juteuse. Et ensuite, on prend toujours le méga choco qui est le révélateur, même pour les légumes. Hein. Et les enfants le font sans problème. Hein. Je leur fais prendre aussi bien des radis noirs, de la betterave crue, de la carotte. Je leur fais goûter du persil. Et en fin de compte, à la deuxième, je leur fais faire comme vous avez fait là. Et ensuite, mais on le garde moins longtemps. Et on le ramène, on le mélange avec la poire, avec le radis noir. Et ça révèle, ça affine et ça révèle. Et à la troisième, quand le palais est prêt, on prend une troisième petit morceau qu'on va croquer encore, ou le vin si c'est du vin. Eh bien, les trois gamines qui ne voulaient pas de la poire, avant même, comme j'ai tout expliqué tranquillement, au moment de commencer à vouloir distribuer, qu'est-ce qu'elles me disent ? Monsieur, je peux goûter ? Et je leur explique, eh bien, vous êtes dû vous faire avoir. Vous avez été des gogos, puisque vous avez donné une poire qui n'était pas mûre. Maintenant, vous saurez qu'une poire, un fruit, ça se sélectionne, et vous ne serez plus des gogos. Et elles me disent, ah ben, elle est bonne celle-là. Ben, j'ai dit, voyez ce que vous êtes fait avoir. Donc vous avez cru que toutes les poires n'étaient pas bonnes. D'ailleurs, le corps est très intelligent. Si vous tombez malade avec un produit, vous faites un problème de santé suite à avoir ingurgité un produit, votre corps, votre cerveau, l'odeur et tout, rien que ça, vous ne pourrez plus le manger. C'est à vie. Vous ne pourrez plus. Parce qu'on a un corps hyper, hyper bien fait. C'est impressionnant comme l'organisme est bien fait. Mais on ne respecte plus et on ne le connaît plus. Là, je viens de lancer un nouveau chocolat, si vous voulez le goûter. C'est au pollen. Donc, il est tout nouveau, il n'est même pas encore commercialisé. Alors, j'ai fait ça avec du pollen et j'ai essayé avec un chocolat industriel bio pour faire le mélange. Ça ne donne rien. Avec là, on met tout le pollen en. Est-ce que vous voulez faire une deuxième dégustation ? Alors, est-ce que vous avez aimé ou pas ? Est-ce que vous avez senti la graine de lin concassée qui amène l'oméga 3 ? Et ça, c'est au bout de 17 mois, on a les analyses qui prouvent scientifiquement qu'on a toujours le double d'oméga 3 et moitié moins d'oméga 6. Et au bout de 17 mois. Donc, oui. Comment ? Alors, c'est fait exprès, madame, parce que les consommateurs, on leur apprend. Quand je vais en Belgique et en Suisse, la première fois, il y a maintenant, ça fait 5-6 ans, ils me disent, ah bon, un chocolatier français qui vient vendre du chocolat à Genève, qu'est-ce qu'il a dans votre chocolat ? Donc, écoute totale. Ça, c'est l'avantage d'aller à l'étranger. Et en fin de compte, chez eux, ils comparent, qu'ils sont disciplinés, contrairement aux Français, les Belges et les Suisses. Donc, ils mettent le demi-carré là. Et ils comparent avec leur ligne de Côte d'Or. Et l'autre, ils voient qu'ils font rapidement. Et à un moment donné, tous les arômes disparaissent, ce qui fait qu'il était si bon. Et là, on voit la merdouille. Et là, je peux vous dire, c'est à vie. Hein. On a énormément de tillons à Namur. On parlait de Namur tout à l'heure, où je fais un salon tous les ans. Voilà. Alors, je vais vous faire goûter au pollen.